Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Pour ce 16e épisode, c'est la deuxième partie du témoignage d'Erwan que vous allez découvrir. Comme vous l'avez sûrement déjà entendu, Erwan a une enfance très particulière, a subi l'horreur par sa mère. Nous avons découvert dans le premier épisode tout ce qu'il a vécu enfant et toute la répercussion que cet inceste a eu sur lui. Dans cette deuxième partie, nous allons découvrir un peu plus le milieu dans lequel Erwan a évolué. Il va parler également de ses histoires d'amour, des femmes qui l'ont aimé et qu'il a aimé, les ruptures très difficiles pour cet hypersensible, mais aussi et surtout sa thérapie qui l'a beaucoup aidé pour avancer, se déconstruire et se reconstruire. Et enfin, Erwan se posera une question qui est très touchante, que les victimes, quelles qu'elles soient, ont dû déjà se poser. Quelle aurait été ma vie sans ce traumatisme ? Je vous laisse avec Erwan et vous souhaite un bon épisode.
Et donc moi, j'arrive dans ce milieu. Alors là, voilà. Mais moi, c'était la teuf, quoi. C'est génial. Moi, je me dis, mais comment on peut en arriver là ? Je veux dire, c'est quoi le truc dans ta vie qui a fait que c'est ça la spécialisation de ton délire, quoi. Donc je lui pose des questions très claires. Il me racontait sa vie, comment enfant, il a eu les premiers talons, je crois. Puis il me racontait ces trucs, quoi.
Est-ce que tu arrives à faire un trait un peu grossier, mais que ces fétiches ont une résonance qui se trouve dans la petite enfance ou des choses comme ça, de tout ce que tu as entendu ?
Peut-être. J'ai jamais. Alors ma mère qui adore tout ramener à elle, parce que j'ai essayé de la revoir quelques fois en tant qu'adulte, et malheureusement je retombe dans le même piège où je racontais tout sur ma vie, donc du coup j'ai arrêté. Et du coup elle m'a dit, ah oui, mais c'est parce que moi j'allais dans ces soirées-là que tu fais ça aussi, machin et tout. Donc elle me redit ça, t'as 21, 24 ans, donc elle remet ça. Plus rien ne m'appartient en fait avec elle. Donc mais je pense pas. Je pense pas du tout, parce que j'avais aucune idée de tous ces trucs-là. Après, ma mère était quelqu'un de très sexuel, donc du coup, à l'extérieur aussi. Donc, moi, quand j'allais en boîte de nuit, je la voyais danser, je la voyais machin qui s'habillait. Puis, en fait, voir le canon en plus, quoi, pour de vrai. Hein. C'est vraiment quelqu'un qui était une très, très, très belle femme. Donc, du coup, il y avait énormément de désir autour d'elle, elle en jouait énormément. Donc, il y a ça aussi, mais en vrai, quand tu commences à aller vraiment dans les soirées BDSM fétiche, t'oublies tout ça. Hein. Mmh. C'est moyenne d'âge 45-50 ans, c'est pas glamour du tout. Moi, je m'en fous. C'est pas mon délire, je veux pas que ce soit glamour, quoi. J'y vais pas pour que ce soit glamour, j'y vais parce que je trouve ça génial en fait. Donc je commence à me prendre de passion pour ce milieu-là. Je deviens fétichiste des fétichistes en fait. Quand on m'a demandé, mais t'es fétichiste de quoi ?
La niche
j'ai
de
fait,
la
je suis fétichiste du fétichisme en fait. Quoi.
C'est toute forme de fétichisme.
Ouais, c'est
qu'est-ce
extraordinaire.
Qu'est-ce que t'as vu de plus improbable ?
Ah, j'en ai vu hein, parce qu'après moi j'ai commencé à faire des soirées privées, des week-ends complets dans des maisons.
Rien ne te choque ?
Non. Il y a des trucs que j'ai pas envie de voir, caca, etc.
Ouais.
Pipi, je m'en fous. Bah, ce qui va me choquer, c'est les choses injustes. Donc, il faut juste que tout soit juste et tout soit
et
bien
dans
placé.
Le consentement.
Et dans le consentement, c'est tout. C'est tout. Tant qu'il y a du consentement. Après, j'ai pas envie de voir quelqu'un se faire découper devant moi, mais je m'en fous. J'ai pratiqué quelques trucs, mais là, c'est pas encore là.
Okay.
Si tu veux que je fasse un peu le.
Toujours dans le.
Là, voilà. Toujours dans la découverte, on
dans
va dire.
Dans l'observation.
Ouais, dans un truc. Et là, en fait, bah, on commence à être tout le temps dans ce milieu-là, puisqu'en fait, ses amis sont dans ce milieu-là. Elle a une maison. Elle a un immeuble à Ménilmontant pour elle. C'est-à-dire qu'on a 4 étages.
Quand tu dis pour elle ?
Bah, elle est toute seule dans cet immeuble, en fait.
Ta meuf ?
Ouais, meuf à cette époque-là. On commence à faire des teufs monumentales. Moi, à l'époque, on avait encore des grosses teufs. Moi, je viens du milieu techno, donc DJ, machin. Et on mélange ces milieux-là, on se retrouve, voilà. Et on s'enchaîne des soirées comme ça. On fait aussi ce qu'on a, qui a les munch, je ne sais pas si tu connais.
Mm-hmm.
Donc, c'est des soirées qui existent encore, où en fait, c'est des dîners autour du thème du fétichisme et du BDSM, où les gens viennent, on mange et il y a un thème et on discute de ça. Et les gens, il y a des débats autour des pratiques.
Mais il n'y a pas de pratique.
Pas de pratique. Alors, il y en a des fois, peut-être après, mais en tout cas, pendant, ce n'est pas pour pratiquer. C'est vraiment des débats d'information, en fait, pour pouvoir faire les choses de façon correcte, informer les gens. Voilà.
Enfin, un dîner shibari, un dîner.
Non, ouais, ça peut être ça. Voilà, les cordes, le consentement, le machin. Il y a plein de thèmes qui vont être amenés. Ceux qui sont 24/7, tu sais, ceux qui sont par exemple soumis mais 24/7. Voilà, il y a tous ces thèmes-là qui sont abordés. Donc c'est super intéressant. Moi, ça me nourrit intellectuellement, j'adore, donc j'y vais comme un...
Est-ce que tu as un dénominateur commun à tous ces gens ?
Non, il n'y en a pas.
Ok.
C'est autant la petite nanette qui a juste envie de se montrer en cuirine latex et d'être méga bonne et qui fera rien de spécial, jusqu'au mec, c'est ton dentiste, tu vois. Et je sais que je trouve génial.
Doigts,
et, c'est le plus hardcore, ouais, c'est ça. C'est le plus hardcore de tous, quoi.
Tu m'étonnes.
Et le lendemain, c'est après la fête, tu vas acheter ton Doliprane et c'est lui que tu vois, tu vois. C'est genre, voilà, en gros, c'est un peu ça. Moi, je suis toujours imaginé en train d'aller acheter mon Doliprane et retomber sur le mec qui était par terre devant moi.
Allez chez tes bottes.
Allez chez mes bottes. En fait, ce qui se passe, c'est que...
Avec Christelle, c'est quoi votre sexualité ?
Assez vanille. Moi, j'ai toujours une sexualité assez vanille. Okay. Ouais, ouais, je ne vais pas très loin. Je suis très ouvert, en fait, à tout. Je veux bien essayer plein de choses. On fait un peu de corde à cette époque-là. Pas vraiment du shibari, plutôt du bandage. Mais vite fait comme ça, parce qu'on est dans ce milieu-là. Moi, je me rappelle, je crois que je me suis déjà pris une séance de fessée par un mec devant que j'étais dans les bras de ma meuf, c'était génial. Et un mec qui m'a mis une pure séance de fessée, c'était donc je teste des petits trucs comme ça, j'apprends à fouetter, voilà, je m'éclate avec plein de trucs. Et toi, à cette époque-là, c'est vraiment, je virevolte dans ce milieu-là. En fait, nous, on était beaucoup aimés par les organisateurs parce qu'on venait faire la teuf, quoi. Donc en fait, on foutait une ambiance de ouf, donc on était assez invités parce qu'on arrivait, on se déguisait vraiment, on s'habillait vraiment, on cherchait vraiment des trucs, quoi, on jouait vraiment. Et on passait notre temps à se bourrer la gueule, à rigoler. Et voilà. Et moi, je rencontrais des gens qui sont allés à la fistinière pour de vrai. Tu vois, moi, je connais un mec, j'avais un petit gars devant moi qui faisait poids plume, qui était vraiment allé à la fistinière.
Le temple du fist.
Ouais, le temple du fist, avec le parc d'attraction.
Qui est dans le Berry, bien sûr.
C'est fermé, malheureusement.
Oui, ils ont vendu.
Feu.
Feu la fistinière. Ils ont vendu il y a peu de temps.
La fistinière. Voilà. Mm-hmm. Et du coup, donc voilà, j'ai pu rencontrer plein de gens comme ça, discuter de sexualité avec eux, et surtout voir c'est quoi, en fait, le plaisir. Qu'est-ce que le plaisir ? Est-ce que, parce qu'on a une définition totalement normée du plaisir, c'est-à-dire c'est ce qui fait du bien, mais les gens quand ils voient quelqu'un fouetter, électrocuter, découper, prendre comme si la personne se faisait violer par exemple, alors que c'est un jeu, jouer, se faire brûler, se faire machin, tout ça, ça peut être vu comme quelque chose d'horrible, qu'on est en train de torturer quelqu'un,
bah,
c'est impossible.
Oui.
Sauf que si la personne, ça le fait plaisir, il est où la limite ? Et moi, je cherche ça, pas avec moi-même.
Philosophiquement, c'est un débat qui pourrait prendre des heures.
Ah, bon, on peut, c'est génial.
C'est extraordinaire.
Et d'où la passion que je rentre là-dedans, dans cette passion de discuter de ça. Il y a des mecs que je connais, que j'ai vus, ils sont 24-7, leur femme, c'est leur maîtresse, et ils font tout ce qu'elles demandent, ils ont des boulots haut placés. Et voilà, il y en a d'autres, une nana que j'ai vue, elle est en chien toute la soirée, donc elle a des petites papates là en cuir là, tu sais, sur la case pan. Elle a un rosebud avec une petite queue de chien, tu vois, qui fait que voilà, elle
aboie
un plug anal qui voilà, sur lequel on peut accrocher quelque chose si on en a envie, pas que un petit diamant. Et du coup, elle se balade et elle a fait que aboyer, et en fait, t'apprends qu'elle est 24/7. Elle dort dans un panier à la maison.
Ok.
Et là, tu te dis, voilà. Qu'est-ce qui se passe, quoi ? Qu'est-ce qui se passe chez ces gens, quoi ?
Toi, avec ton rapport avec toi-même, c'est quelque chose qui t'excite sexuellement ou... Non, c'est juste la recherche intellectuelle.
Ah ouais, ouais. Pourquoi, quoi ? Pourquoi vous faites ça ? C'est quand même... Et du coup, moi, ça m'ouvre des horizons incroyables, pas pour ma sexualité, forcément. Mais juste philosophiquement parlant, quoi.
Oui, sociologiquement.
C'est génial, quoi.
Qu'est-ce qui te donne envie de faire le chien ?
Bah ouais.
Qu'est-ce qui
t'est arrivé dans ta vie pour que ça se fasse, quoi ? Qu'est-ce qui fait que t'as autant envie de lâcher tout, quoi ? Ouais, tu vois ?
Et t'as eu tes réponses ?
Non, pas avec elle, parce que quand elle me répondait, je pouvais pas comprendre.
La boit, bien sûr.
Voilà. Mais bon, il y a des psys pour animaux maintenant.
Je vous amène ma femme, enfin c'est ma chienne, on se comprend.
Ce serait génial, la petite scénette.
Ok.
Et donc j'ai voulu dans ce milieu. Bon, avec Christelle, le problème c'est que là, moi j'avais beaucoup mangé avec les nanas, et en fait c'est elle qui prend tout pour toutes les autres.
Elle était plus vieille que toi ?
Non, même âge, première fois. Elle prend pour toutes les autres. Moi, je m'ennuie en fait avec elle, directement. Ouais. Et
Vous marrez pas ?
Si, on se marre sur plein de trucs, mais en fait, je me rends compte que je m'ennuie dans la relation et en fait, d'accord, au lieu de la quitter, je repars, je reviens. Donc, elle a pris très cher. J'ai eu un modèle il y a pas longtemps. Voilà, où je me suis excusé juste après notre relation, parce que je m'en suis tout de suite rendu compte de ce que j'avais fait. Et en fait, ça l'a suivi des années, apparemment. 8 ans après, c'est encore.
Ah, tu l'as abîmé, ouais.
Ouais, 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 beaucoup. Après, bon, moi, je sais prendre mes responsabilités, je sais jusqu'où. Donc après, moi aussi, hein, j'ai souffert et il n'y a aucune de mes nanas à qui je mets ça sur leur faute. Donc voilà, Ouais. Mais je m'en fous, moi, c'est pas mon problème. Ouais, pas... Je m'en fous. Je m'en fous. C'est-à-dire que si pour elle, c'est de ma faute, j'agis en tant que. Oui. Je m'excuse en tant que ça. C'est sa réalité à elle, je peux rien y faire, bien en fait. Voilà. C'est sa réalité.
Ah, donc, bah, sinon, t'imagines à chaque fois, c'est oui, mais c'est parce qu'en fait.
Non, tu vois. Bon, en plus, elle connaît ma vie, mais voilà, j'ai pas envie de réitérer pourquoi. Et puis, de toute façon, j'ai pas d'excuses à donner. Il y a que des raisons. Et voilà. Et j'ai juste à. Voilà. Donc, je... c'était il y a pas très longtemps. Mais donc, du coup, voilà, ça se passe comme ça. Je quitte ce milieu pas mal. Et je me retrouve en fait à retrouver dans ce milieu-là pendant tout ce temps-là le fameux photographe qui, ah. qui je m'entendais mal, mais qui devient un très très bon ami.
Ok.
Et là, lui, il me trimballe. Et il me fait rentrer dans les soirées privées.
D'accord. C'est avec lui que tu accèdes au next step.
Ouais. Là, c'est autre chose. Là, on est sur autre chose. Là, on est sur week-end dans une grande maison où il y a un donjon. Où il y a une trentaine, quarantaine d'adultes, tous très consentants, qui ont tous des pratiques complètement différentes. Il y a des trans, il y a des traves, il y a des bonhommes, il y a des chiennes, des machins, de tout. C'est, je te jure, c'est les VVF vacances du BDSM. C'est-à-dire qu'on est au bord de la piscine, on fait des jeux, tu sais,
avec
où
un
tu
géo.
Mets un magic wand. Tu vois ce que c'est le magic wand? Donc, c'est espèce de, oui. de god là, qui vibre.
Alors,
c'est à mort.
Des... Ouais, en fait, à la base, c'est un outil de massage.
Je suis même pas sûr que ça t'ait fait un jour pour un outil de massage.
Laisse le... Mais effectivement, c'est assez impressionnant parce que ça fait la taille d'un avant-bras et avec un...
Une puissance de
ouf. Ah ben, oui, c'est extraordinaire. Dans... Et la tête massante, ça tient dans la main.
Ouais, alors celui-là c'est un peu plus petit, mais effectivement c'est ce genre-là.
Ah, c'est quand même, enfin.
Non, mais dans le sens où il y en a toutes les tailles, quoi.
Ah oui, d'accord. Ça, c'était...
Oui, le gros, le japonais là, il est énorme.
Le blanc là. Oh. Bref.
Et en gros, on se retrouve avec ça. Donc, les jeux, ça peut être au bord de la piscine. On fait un question-réponse à la qui veut gagner des millions. Sauf que l'autre, la nana, elle a un magic wand et donc au moment où elle doit répondre, tu le mets au maximum, elle peut pas répondre. Il y a tellement de sensations, donc on se marre. Comme c'est que des jeux comme ça, donc un peu enfantin. Okay. Et après, ça peut partir dans des choses beaucoup, beaucoup de shibari, parce que c'est chez quelqu'un qui pratique énormément le shibari.
Ok. Donc, c'est un particulier ?
C'est un particulier,
qui
oui,
a
c'est
un
chez
super
lui,
baraque.
Qui est super baraque avec un donjon.
Et il invite les gens.
Voilà.
C'est et ça. Donc, t'es coopté au fur et à mesure des
rencontres.
C'est ça,
tu fais rentrer des gens que tu connais, quoi. Moi,
mais
je suis très vite.
Comment ça se passe ? Logistique avant tout. Ouais. Comment ça se passe ? Tu payes quelque chose ?
Non, chacun amène des courses. Oui, je crois qu'il y a une participation à la fin pour ce qui.
D'accord.
Mais c'est pas payant, quoi. C'est-à-dire que c'est
d'accord.
comme une pote en vacances, quoi.
Ok. Il
y en a qui ont fait
les
frais.
Avec qui tu t'entends vraiment très bien.
Bah, pas forcément.
Ok.
Enfin, pas forcément dans le sens. Bah, je connaissais personne,
tu
vois.
Je veux dire,
oui.
Tu t'arrives dans une intimité qui, quand même.
Bah ouais, mais est-ce que. Pareil, où se place l'intimité là-dedans ? Est-ce que finalement, quand tu le fais dans des soirées comme ça. Moi, je suis sûr que les pires du BDSM, ils sont pas en soirée.
D'accord.
Et les plus vénères du BDSM, ils sont pas en soirée. Ils sont chez eux.
D'accord.
Mais oui, quoi, nous, on s'amuse.
Ok.
Après, j'ai vu des choses très fortes, mais. Et peut-être qu'il y en a qui sont aussi très forts chez eux, mais je veux dire, dans le sens où. Là, comment on pourrait faire ? C'est un moment où on se voit tous ensemble de façon sociale. Après, ce qui se passe à la maison est vraiment, okay. je pense, plus vénère. Moi, j'ai jamais pratiqué, mais.
Est-ce que le projet de ces gens-là, c'est la jouissance ? Est-ce que c'est la performance ?
Alors, ça va même plus loin que la jouissance parce qu'il y a ce qu'ils appellent le. Merde, j'ai oublié le nom. Quand tu pars en transe, en fait, c'est carrément la transe.
D'accord.
Il y a des transes de plaisir parce que là, c'est plus de la jouissance sexuelle phallocentrée ou.
Ou un orgasme clitoridien,
voilà, clitoris non mais centré,
clitoris
centré, voilà. Et donc du coup, le subspace, ça c'est un truc qu'ils essayent d'atteindre, c'est de partir en subspace. C'est-à-dire que là, ça peut être
la stratosphère.
Et j'ai vu partir quelqu'un en subspace, c'est les yeux révulsés, c'est une espèce d'orgasme de je sais pas combien de temps, quoi. C'est
okay.
un truc de fou, quoi. Mais là, c'est des gens qui se connaissent très bien, qui sont en couple, qui savent quoi faire à l'autre.
Oui, puis qui sont dans un lâcher-prise.
Dans un lâcher-prise, qui sont en confiance totale, etc. C'est très intéressant à voir. C'est très intéressant. Et en fait, moi, ce que je pense que je cherche dans ces milieux-là, c'est une réponse, mm-hmm. en fait. C'est-à-dire, je sens que je marche pas de façon normale. Je sens que j'ai pas plus accès au plaisir. J'ai eu un orgasme une fois.
Mais t'as pas commencé ta thérapie à ce moment-là ?
Non, pas à ce moment-là. Ma thérapie est arrivée après même. Moi, j'y vais plus, hein, dans ces milieux-là. Mais voilà. Et pas par juste parce que ça se fait plus, quoi, c'est tout. Mais et en fait, en gros, moi, je pense qu'à ce moment-là, je recherche un plaisir, en fait, quelque chose. Bah, j'essaie de trouver, quoi, qu'est-ce qui se passe pour moi, en fait, quoi. Où est-ce que je me situe dans cette sexualité? Donc là, je suis dans un endroit où il y a quand même ça en parle beaucoup, c'est très ouvert. Donc c'était très intéressant. J'ai passé des très très bons week-ends, voilà. Et puis en fait, ça se terminait toujours avec une petite nana qui était là-bas et puis
Okay.
Sex vanille. Voilà, parce qu'en plus, moi, ce que je vais mettre, ce que je vais laisser dans le vanille quand même par rapport à ce que j'ai pu voir,
ouais.
Tout ce qui va être pratique avec des sextoys et tout, je laisse dans le vanille. Tout ce D'accord. qui va être même bougie, je vais laisser ça dans le vanille. Donc voilà.
Bougie, c'est tu...
verser de la cire chaude. Puis ça dépend de la bougie, hein, parce qu'on peut vite aller de ça, c'est rigolo, ça chatouille, ça brûle.
Brûlure du 3e degré. Voilà. Donc, faut attention.
Pas de cire d'abeille, les gens, ouais. Jamais. Vous évitez tout de suite les bougies.
En plus, il y a des bougies qui sont spécialement conçues pour ça,
ouais.
Où la cire se transforme en huile de massage.
Oui, alors ça brûle pas du tout, du tout. Non, alors là, on est vraiment sur du jeu tout à fait érotique, voilà. J'ai jamais vu celle-là dans les
oui,
milieux-là,
j'imagine,
c'est sûr.
Ouais.
Il y a des bougies spéciales Shibari, en fait, des bougies japonaises qui sont un peu costauds. Hein. Franchement, moi, okay. je me les mets pas dessus, mais... Bon, enfin bon, tout ça pour dire qu'en fait, moi, finalement, je me retrouve toujours avec la petite nénette qui est là et avec qui on termine de façon très vanille et c'est cool. Et... Je suis pas dominant, j'ai pas envie de dominer, j'ai pas envie d'être dominé, j'ai pas envie de... Après, j'ai eu des pratiques avec des femmes assez cool, voilà, où... Ouais. J'aime bien être, par contre, l'instrument du plaisir.
D'accord.
Sans soumission.
Okay.
Mais l'instrument du plaisir, c'est-à-dire que une nana qui je connaissais une nana qui pouvait tenir des douleurs jusqu'à je comprends pas jusqu'où ça pouvait aller et j'ai mis des fessées jusqu'à en faire saigner quoi.
Tu D'accord.
vois voilà, et ça s'arrêtait jamais quoi. C'est-à-dire que moi j'avais plus mal aux mains qu'elle avait mal aux fesses, c'était incroyable, c'était
okay. un
truc extraordinaire dans le sens, c'est vraiment sort de l'ordinaire.
Oui, performance.
Donc
physique.
Moi j'adorais essayer des trucs comme ça tant que ça voilà. Mais en fait, je me rends compte que toutes ces années-là que je passe, en fait pareil, je suis c'est incroyable tout ça, c'est un peu génial à raconter. J'ai vachement défini d'ailleurs mon approche aux femmes en racontant tout ça. Ça me mettait un espèce de personnage en avant. Mais la réalité, l'intimité de tout ça, j'étais pas à l'aise en fait. Mais pas mal à l'aise, j'adorais être dans ces soirées. Mais il y a une partie
pas à ta
de moi.
Place.
Je sais pas, c'est une histoire de place parce qu'en fait, il y a nulle part, je crois, où je suis vraiment à ma
parce
place
que
pour l'instant.
Depuis le départ, à chaque fois que tu parles, t'es spectateur de quelque chose.
Oui, tout à fait, ouais. Spectateur, et en fait, là où je vais rentrer dedans, c'est cérébralement, mais pas physiquement. Tu vois, il n'y a
c'est
pas.
Ça. Il n'y a pas d'action.
Il n'y a pas d'action en tout cas. Il y en a, mais en tout cas, qui ne viendrait jamais amener mon plaisir à le mien, ou en tout cas amener une. Voilà.
En tout cas, oui, tout n'est pas toujours aligné. Quoi.
Ouais, c'est très cloisonné en fait. Et du coup, voilà, ouais, de toute façon, il y a un côté toujours très cérébral. Et c'est d'ailleurs, je pense, un de mes soucis aussi dans la sexualité, dans ma mise en relation aussi avec les gens, c'est que voilà, tout est dans la tête, je suis coupé de mon corps. Ouais, pas pour rien. Mais voilà, je coupe. Voilà, il y a une vraie séparation entre la tête et le corps parce que ma tête m'a sauvé en fait. C'est-à-dire que de réfléchir à tout ce qui m'est arrivé pendant l'enfance m'a sauvé. C'est ça qui fait que j'ai pas terminé avec une aiguille dans le bras et qu'on se parle aujourd'hui, tu vois. Et j'ai encore toutes mes dents, quoi. Donc du coup, vraiment, il y a vraiment ce truc où je suis très attaché à mon côté cérébral. Donc c'était ça aussi pendant ces moments-là. Mais en fait, derrière, je sens qu'il y a un truc où je me sens pas forcément au mieux, quoi. Et toute cette période-là, en fait, elle est concomitante avec une femme que j'ai rencontrée, avec qui je suis resté 3 ans, et avec qui, comment dire, c'était très sexualisé aussi, en fait. C'est une femme très très sur le sexe et qui ressemblait énormément à ma mère, en fait. Et j'ai choisi beaucoup de femmes qui ressemblaient à ma mère. Et quand
physiquement
elle... Non, je parle de... Alors après, si, j'ai ressorti plein de photos de famille, et du coup, c'est marrant, j'aime bien les bouilles qui peuvent ressembler à ma mère, mais quand elle était très jeune.
D'accord.
Et donc, je ne me rappelle pas trop de ce visage-là, mais c'est marrant. Et d'ailleurs, mon père aussi, quand tu regardes les nanas qu'il a eues, et qui ressemble à ma grand-mère aussi. Quoi. C'est très marrant. Quoi. Ça, bon, je pense qu'après, là, on est sur quelque chose de beaucoup plus banal.
Donc, cette femme, elle ressemble à ta mère?
Dans le psychologique, dans la relation qu'on va avoir en fait. Mais en fait, c'est ce que j'ai réitéré à chaque fois avec les femmes, c'est que j'ai remis cette relation-là en avant en fait. C'est-à-dire, et là, c'est là où ça commence à partir en couille pour moi en fait, au niveau de la sexualité. Et en fait, où je commence à me rendre compte d'un schéma qui commence à se mettre en place et qui va de pire en pire jusqu'à maintenant qu'on vient discuter. Où là, c'est vraiment là, on est sur l'apothéose du truc. Ce qui est plutôt positif, hein, parce que les choses se remettent à zéro, mais c'est dur à vivre en ce moment.
Faut tomber bas pour remonter.
Ouais, bah là, je suis obligé, j'ai déconstruire, donc de toute façon, voilà. Et il y a des choses très profondes, donc ça va très très bas, très très loin. Et du coup, je rencontre cette nana, c'est le flash, en une semaine, on se dit je t'aime, c'est tout de suite sa part. On monte moi j'ai eu un cabaret pendant 3 ans. Avec elle qui commençait à monter son cabaret en fait, et donc je l'ai aidé, puis j'ai fait partie du truc et tout, ça a duré 3 ans.
À Paris,
ouais, qui faisait du burlesque en fait. Elle était danseuse burlesque, moi je l'ai rencontrée comme ça, et donc je suis avec Claire du coup, cette nana là et du coup au départ, moi en fait, en plus je m'annonçais comme quelqu'un de très sexuel du coup, avec toute cette expérience que
Bien
j'avais
sûr.
Derrière moi, avec des gros besoins sexuels, alors que
finalement
non,
pas
finalement
tant
peu. Et en fait, finalement, donc, et donc ce qui se passe, c'est que je me retrouve à jouer un personnage. Je m'en compte de plus en plus pour me cacher, en fait, parce que je pense que les conséquences de mon enfance commencent à monter, en fait. Je pense qu'il y a de ça. En fait, je commence à le sentir dans ma vie de tous les jours, sans le savoir, hein, mais ça commence
T'as des expressions physiques ou mentales? Tu le sens? C'est une intuition?
Non, je le sens pas à ce moment-là, je le raconte maintenant. D'accord, mais je pense que c'est ça qui m'entoure. Okay. Bah oui, parce que tous les symptômes qui vont monter vont avec ça.
Je veux dire, t'as pas de crise d'angoisse, t'as pas des choses qui...
Ah, oh, si, alors voilà, on raconte ma vie là, mais non, si, les crises d'angoisse, etc., ça faisait partie de mon quotidien, beaucoup moins, mais voilà. Et du coup, très vite, moi, la sexualité s'arrête. En fait, le schéma maintenant que j'ai en couple, c'est je me mets avec quelqu'un, je le désire énormément. À partir du moment où je l'ai, la sexualité s'arrête. Ça retombe très vite comme un soufflet.
T'as plus de libido.
Ouais, il y a un truc très, ça disparaît d'un coup.
Donc, avec cette personne?
Avec elle, avec d'autres femmes aussi.
Ah d'accord, donc tu désires plus personne.
Bah en fait, ah oui aussi, ça peut être un peu. En fait, il y a un espèce de désir, mais en fait, ça se met plus en place. Alors à l'époque où je te le raconte, quand j'étais avec elle, c'était pas la même. Je m'en rendais pas compte en fait, tu vois. Donc en fait, on a quand même beaucoup fait l'amour au départ, hein, mais en fait, ça allait de plus en plus rapidement, mais on va le voir avec la suite, avec les autres femmes. Mais du coup, bah au bout d'un moment, moi je l'ai quitté une première fois. Ça fait partie aussi de tous mes trucs. Je prends une nana, je la quitte parce que pareil, l'amour retombe comme un soufflet. J'ai les sentiments qui s'en vont. C'est très compliqué, quoi. C'est vraiment, il y a quelque chose qui se passe. C'est pouf. Ça part, quoi. Et c'est horrible parce qu'en fait, je tombe très amoureux et en fait, dès que je... Voilà.
Dès que tu...
Je sais pas, dès qu'il se passe quoi, dès que je sens que tout est bien verrouillé, il y a tout qui part, quoi.
Tu pourrais nourrir une histoire d'amour avec quelqu'un qui te renvoie pas cet amour? Tu penses que tu pourrais rester longtemps amoureux?
Bah, c'est justement ça. Je pense qu'en fait, là où le schéma se répète, c'est qu'en fait, justement, je veux l'inaccessible. Mm-hmm. Et une fois que j'ai l'inaccessible, j'en veux plus parce que c'est malsain. Si je les mets à la place de ma mère, ces femmes-là, si on y va à fond là sur le schéma, à partir du moment où je peux coucher avec, mais non, il faut surtout pas, parce qu'au départ, inconsciemment, le schéma a été recréé.
Okay.
Et je pense qu'il y a une histoire de vouloir rechanger ma mère, recréer quelque chose, ou alors au moins dire que c'est normal. Il y a ce truc-là aussi, c'est-à-dire que recréer, si moi je mets en place dans ma vie des relations malsaines qui en fait sont saines, bah en fait ce qui s'est passé pendant mon enfance, tout va bien.
Mmh.
Mais en fait non. Voilà. Donc du coup. Ça part en couille très vite, je lui fais énormément de mal. Moi, je suis assez manipulateur aussi. C'est très compliqué parce que je suis manipulateur tout en disant que je le suis. Quoi. Il y a un côté, en fait.
T'as conscience.
Ouais, j'ai conscience de ce qui se passe, donc on en parle, mais quand même, elle a mangé.
Tu dis manipulateur, c'est pas une forme d'intelligence?
Non, je fais pas exprès du tout. Hein.
Tu fais pas exprès?
Ah non, pas du tout.
Un manipulateur le fait exprès.
Oui, bah, en fait, je manipule les choses pour que ça soit mon image, mais sans que je m'en rende compte. En fait, j'essaie de me protéger. En
même
fait.
Temps qu'il ne le fait pas.
Oui, non, mais dans un sens assez fort, quoi. Voilà. Ouais, et, okay. Quand je le vois avec le recul, c'est chaud, quoi. Donc. Elle est plus jeune que moi, elle a 3 ans de moins que moi. Donc cette jeune femme tombe sur un mec comme moi, elle me regarde avec des grands yeux. Je suis arrivé, en plus moi je te fais le jeu, quand je me mets en couple, je te fais la totale, quoi. Je m'en suis rendu compte il y a pas longtemps parce que je parlais avec des copines de comment je me mettais en couple. Elles font non mais Erwan, tu te rends compte de ce que tu fais, quoi. En gros voilà, je gagnais très bien ma vie, ce qui est toujours le cas aujourd'hui, mais dans le sens où j'avais les moyens en plus de tout faire péter, quoi. Voilà. Et en plus je suis
fou.
Je suis un flambeur, je suis un ouf. Non mais voilà, j'en ai rien à foutre de la thune, j'en ai toujours rien à foutre de la thune. Et en fait, quand je rencontre cette Claire, j'arrête de me droguer du jour au lendemain. Elle se drogue pas. Non, du tout. Elle se drogue pas. J'en profite. Je fais okay, super. Je me mets avec une meuf qui se défonce pas la gueule. Je coupe tout, quoi.
Okay.
Donc, du jour au lendemain, j'arrête tout et je me retrouve. Et elle va voir une psy et en fait, elle me dit ce serait bien que t'ailles voir une psy parce qu'elle commence à voir le phénomène qu'il y a derrière. Et surtout ce que je lui raconte de ma vie.
Elle lui parle de toi à sa psy?
Je sais pas, non, pas sa psy. Elle, Claire, voit le phénomène, quoi. Elle voit que moi j'aurais peut-être besoin d'avoir une psy, donc elle me conseille d'aller voir une psy. C'est vrai, ça fait des années que je vais aller en voir, donc je commence à voir ma psy. Donc là, elle m'a apporté ça. Elle m'a apporté deux choses. J'arrête la drogue, donc ça, merci.
Extraordinaire.
Et puis de m'apporter ma psy, donc ça, merci aussi. Mais ça part très. Quoi. Elle avait prédit un truc, elle avait dit si tu vas voir ta psy, tu vas me quitter. Et ce qui est arrivé, c'est vrai. Après, voilà, je pense que je m'ennuie vite. Mmh. Je m'ennuie très vite. Et en fait, je pense que... Voilà, il y a ça aussi qui monte. Donc, je la quitte. Mais en fait, quitter quelqu'un pour moi, c'est horrible parce que je m'auto-abandonne quelque part. Donc, j'arrive pas. Donc, je reviens.
Tu fais du mal. Et puis,
elle, en plus, pendant ce moment-là, je comprends qu'elle voit d'autres hommes, etc. Donc là, ça vient tirer sur des cordes sensibles chez moi qui sont horribles. Et là, on se remet quand même ensemble. Et là, c'est l'horreur pendant deux ans de plus. C'est, voilà.
Deux ans de plus, en
ouais, deux ans, ça a duré trois ans. Et voilà, plus de sexualité, plus de machin. En plus, on vit dans un monde ultra sexualisé, le burlesque, etc. Donc voilà, les soirées fétiches aussi un peu, machin. Et bon, moi, par contre, je vis un rêve. Parce que depuis tout petit, je rêvais d'être un fils de tenancier de cabaret. Ça, mon... Donc moi, si tu veux, j'ai passé des années à accrocher le corset de Nana. Elle me voit et moi, en plus, j'ai un respect énorme. Donc, et voilà, donc avec Claire, ça a été très compliqué. On s'est, et la relation s'arrête. Et là, moi, ça a été l'horreur parce que bah, elle s'est vengée après, quoi.
C'est-à-dire
bah, elle m'a fait manger toute notre relation après, quoi. Donc, c'est-à-dire, je savais ce qui se passait de son côté, les mecs qu'elle voyait, elle est devenue polyamoureuse, etc. Donc, du coup, on traînait beaucoup avec les, dans le milieu polyamoureux aussi. Mm-hmm. Bah, elle, moi, après, moi, je ne lui ai plus jamais parlé, quoi, pendant longtemps. On a voulu qu'on se revoie, j'étais très en colère. J'ai, vraiment, elle m'a fait manger après, derrière. C'était moi, là, j'ai jamais pensé à la mort, vraiment, dans ma vie. Le sujet du suicide est quelque chose qui n'est pas forcément. Mais là, j'ai compris que ça puisse être un sujet, quoi.
D'accord.
Ouais. J'ai l'impression de perdre mes dents, quoi. Des fois, j'avais tellement mal au cœur que j'ai l'impression que mes dents tombaient, quoi. C'est physiquement, hein, ça, j'avais les gencives qui étaient douloureuses, quoi. Donc vraiment quelque chose, des nuits à dormir une heure, à bosser en même temps, devoir tenir ma carrière, etc. Enfin bon, okay, c'est très.
T'étais fou amoureux d'elle ? Ou c'est parce qu'elle elle appuyait sur
ça, c'est
blessures.
La grande question. Suis-je amoureux ou suis-je dans le pathos, quoi. Ou dans la névrose. Et ça, c'est... Ou est-ce que l'amour est une névrose ? Mais voilà, non, mais c'est toute la question. C'est est-ce que j'étais amoureux d'elle ou est-ce que j'étais amoureux de la situ ? Ou est-ce que je voulais revivre une situation et régler les choses qu'il y avait à régler avec ?
Donc, ton histoire avec Claire se termine ?
Elle se termine. Donc vraiment, moi, c'est la pire rupture que j'ai jamais eue de ma vie. Là, je suis dans mes... En fait, je rentre vraiment profondément dans ce qu'est ma souffrance.
Okay.
Peur de l'abandon... m'accrocher à quelqu'un qui m'abandonne, qui est malveillant, malveillante pour le coup.
Elle l'a fait en miroir. Enfin, tu penses que c'est quelqu'un qui l'est ou c'est quelqu'un qui a réagi en réaction à...
Réaction.
Ouais.
Réaction, sa vie aussi. Voilà, problème, j'imagine, quoi, avec les hommes. Et puis moi, voilà, je l'ai... Il y a un truc, en fait, qui est très dur pour moi, que je viens de me rendre compte. Hein, thérapie, c'est génial pour ça. C'est que j'ai été énormément aimé par ces femmes, par Christelle, par Claire et par Émilie, dont on parlera après. Mm-hmm. Je ne m'en rendais pas compte. Et ça, c'est une... tu vois, j'ai envie d'en pleurer tellement ça me...
Ça te touche. Enfin,
je ne pouvais pas m'en rendre compte, en fait. Mm-hmm. Et c'est, donc, elle m'a aimé profondément, Claire. Et je pense que c'est encore le cas. On se revoit dimanche, là, tu vois. Donc, elle a essayé de me recontacter, mais des fois, elle m'a harcelé pour qu'on se voit. J'ai dû tout couper. J'ai dû tout, après la séparation, tout couper. Je voulais plus entendre parler d'elle. Ce qui ressemblait très fort au comportement de ma mère. Mm-hmm. Et moi, ce que j'en faisais aussi, c'est-à-dire tout couper. Aujourd'hui, je lui en veux plus du tout. J'ai été vraiment en haine contre elle. Hein, c'était l'horreur.
Quand tu la vois, là, dans quelques jours, t'es dans quel état d'esprit ?
Là, je sais pas ce qu'elle veut. En fait, la dernière fois qu'on s'est vu, ça, c'était super. Je lui ai remercié de vous devoir réessayer parce que moi, ça m'a permis de me mettre au clair. Et du coup, donc vraiment, je l'en remercie. Et après, moi, il y a eu de la confusion, je pense. Je suis reparti un peu comme en 40 dans un espèce de truc de peur. Mm-hmm. Mais ça a été très constructif pour moi parce qu'en fait on a dit voilà, si on se revoit un peu, on parle de tout, on se raconte tout et on arrête de parce qu'en fait moi je me sens beaucoup plus à l'aise quand tout est dit.
Bien sûr.
J'ai besoin de que les choses soient justes et que les choses soient ouvertes et je suis quelqu'un qui est très dans la communication en couple, j'ai toujours tout dit, toujours tout, voilà. Mais j'ai pas toujours ça en retour. C'est très compliqué d'avoir des gens comme ça en retour.
Bah,
c'est pas le cas de Claire.
Tout le monde a pas ce schéma, en tout cas.
Claire, en tout cas pour moi, je sais pas son cas en général, mais en tout cas pour moi, dans notre relation et dans comment elle est, bah, en tout cas, moi, je vois très bien qu'il y a plein de choses qui sont pas très claires pour elle. Et du coup, là, c'était un peu le cas. Genre, elle me répond pas le week-end après, derrière. Je fais, écoute, voilà, on a dit qu'on se parlait franchement. Là, on vient à peine de se reparler. Je sais que tu vois, t'es accroché à ton portable. Donc je te le dis franchement, voilà, je suis un peu inquiet quand tu fais ça parce que voilà, il y a un truc qui, elle me fait une phase genre, écoute, il y a plein de fois où j'ai pas mon téléphone, il y a plein de fois si, un truc un peu pas du tout franc du collier quoi. Et donc là, ça m'a fait du bien parce que là, j'ai dit non, parce que là, le non, t'imagines bien que dans ma vie, c'est quelque chose de très important, quelque chose que j'ai pas forcément réussi à faire. Que voilà, je pense qu'aussi, c'est une de mes grosses problématiques en couple, c'est voilà, c'est de pas réussir à dire non en fait.
Ah, parce que quand tu dis non, t'es acteur.
Voilà, et que moi, j'ai vécu une enfance où bah, c'est en plus c'était moi qui étais qui demandait, et en plus, bah voilà, le consentement est quelque chose de problématique, on va dire. Mmh. Pour moi, hein, pour les autres, justement, c'est fou comment ça s'est transvasé chez les autres comme quelque chose qui était pour moi justement impossible. S'il n'y avait pas l'approbation de l'autre, c'est impossible que je fasse quoi que ce soit. Et donc là, c'était très, très constructif pour moi, parce que j'ai fait un long message vocal, là, c'est un super message WhatsApp vocal qu'on peut faire, où je lui ai dit qu'écoute, voilà, bah, j'étais très heureux de l'avoir revu, mais qu'au vu de comment ça se passait là maintenant, je préférais arrêter. Et elle m'a recontacté encore plusieurs fois. en me disant voilà qu'elle aimerait quand même me revoir parce que j'arrive apparemment je sors pas de la tête pour certaines choses hein, c'est pas
ouais,
une histoire
ouais,
genre amoureuse. Après elle est polyamoureuse donc du coup ça se trouve pour elle voilà il y a une place dans son cœur
ouais, peut-être parce qu'elle a pas fini de régler avec toi ou peut-être quelque chose qu'elle
voilà,
a pas terminé
y a...
ou...
ouais je sais pas ce qu'elle veut donc là moi j'y vais en mode il y a surtout quelque chose c'est que voilà il y a quelqu'un qui a des qui a de l'amour pour moi donc j'y vais je vais voir et voilà et je vais peut-être pas pouvoir lui offrir ce qu'elle veut donc j'y vais en lui demandant ce qu'elle veut.
Okay.
Parce que moi, c'est pas moi qui veux la revoir là, donc voilà. Et là, on va voir si les choses sont voilà, limpides. Je sais le mot que j'ai appris ce mot-là avec, en sortant avec elle. Limpide est devenu un vocabulaire. Et on va voir. Après, moi, je me revois pas me remettre avec. Je me vois peut-être avoir.
Il y a beaucoup de souffrance.
Ouais, franchement, quelque chose dans l'affection et dans peut-être la sexualité, peut-être, tu vois. Mais pas plus, quoi. Voilà, quelque chose. Moi, je veux pas. Je serais pas ami avec elle, je pense qu'il y a. Donc, il y a plus quelque chose qui serait. Moi, ce serait mon désir, en tout cas. Je pense que ce serait. Ce que j'aimerais, mais est-ce que c'est bien ou pas, j'en sais rien. Enfin bon, on verra.
Bon, je veux pas spoiler, mais je pense que non.
De quoi ? Ouais, ouais, voilà, c'est ça. Ouais.
Je pense que c'est
moi aussi.
Tu vois ?
Exactement. Mais bon, je vais voir ce qu'il y a. Je vais vivre mon truc à ce niveau-là et on verra. Et du coup, je sais plus pourquoi on parlait de ça. Mais en tout cas, voilà, oui, il y a des femmes qui m'ont aimé. Quand même, Christelle, 8 ans, quoi. Ça faisait 8 ans le message qu'elle m'a envoyé il y a quelques mois, quoi, tu vois. Que c'est pas sorti, quoi.
Tu laisses une empreinte, en tout cas, à ces femmes.
Ouais, ouais, ouais. Et c'est là où j'ai ces discussions avec ses amis, où je leur disais, mais je comprends pas à quel point je leur laisse ça.
Bah, pour faire un gros bond en arrière, mais Pamela, quand elle te fait cette histoire d'enfant, etc., hein, tu le fais par désespoir, est-ce qu'elle s'est pas dit que c'était la solution pour te garder et que
ouais,
tu l'aimes
ouais.
Donc elle allait dans le truc le pire,
ouais, ouais, ouais.
Manipuler, mentir, ouais. Inventer une grossesse. Enfin, tu vois, est-ce qu'à chaque ouais. fois, elle cherche pas quelque chose et après, peut-être instinctivement. Comme elles sont faites que tu as un rapport compliqué avec la féminité, avec la femme, avec la sexualité, est-ce qu'elles ne vont pas aussi chercher et te faire mal en se disant que c'est peut-être ça ?
Ah, mais carrément,
consciemment, inconsciemment, tu vois.
Et puis là, moi, j'en veux beaucoup à Claire, c'est que j'étais un livre ouvert.
Ouais.
Donc, je lui ai donné le mode d'emploi pour autant me faire du bien que me faire du mal. Elle a choisi. Tout simplement. Voilà, choisi. Elle a pas vraiment choisi. Elle a pris ce chemin-là. Parce que dire qu'elle a choisi, ce serait dire que moi, je choisis à chaque fois que j'ai fait du mal à des gens.
Oui, oui.
On en est responsable,
elle
mais
a pas su
faire
le
choix est différent.
Voilà,
voilà. Donc voilà, elle n'a pas su faire autrement exactement. Mais en tout cas, malheureusement, elle avait tout ce qu'il fallait. Quoi. Et elle a bien usé tout ce qu'il fallait. Et moi, j'imagine aussi, dans l'autre sens, hein, elle doit avoir exactement les mêmes choses à dire de son côté. Cette histoire voilà, passe. Et en fait, là, c'est le début de vraiment mes déboires sexuels où ça commence à vraiment pas aller bien à ce niveau-là. Je n'ai plus aucune confiance en moi. Et en plus, surtout, avec le schéma sexuel que j'ai par rapport à moi, qu'est-ce que c'est ? Combien de personnes avoir dans sa vie ? Combien de machins ? Moi, j'avais ma mère comme exemple. Donc, si tu veux, la pièce, là, il fallait la remplir. Donc, j'étais persuadé qu'il fallait que je sois un homme à femme. Et depuis tout jeune. Je voulais lécher toutes les chattes du monde, quoi. C'était, voilà, c'était très clair dans ma tête. Mais okay. Ça, je voulais voir celle avec des petites lèvres, des grosses lèvres, des machins,
d'accord.
Des clitoris énormes, des petits clitoris, celle renfermée, celle machin, c'est tout.
Okay.
Je voulais tout voir. J'étais passionné par le corps des femmes. Moi, je suis fétichiste un peu du corps des femmes. C'est-à-dire que je peux tomber juste sur des chevilles qui me font rêver et ça me suffit pour faire waouh, putain, c'est quoi ce truc de ouf et tout. Voilà, un cou, poignet. J'ai toute une histoire de proportion aussi. Pas besoin
d'accord.
qu'une nana soit fine ou ronde ou machin. C'est une histoire de comment ça se passe
d'harmonie.
Au niveau d'harmonie que j'ai décidé moi, hein, qui est une harmonie tout à fait personnelle, on s'entend. Et voilà. Donc il y a tout un truc là-dessus. Donc, et là, je pars dans ce délire-là. Quoi. Et donc, sachant que maintenant, tout ce que je te raconte, c'est une séance de psy par semaine dans tout long et un groupe par mois, donc d'une journée et demie de groupe de thérapie. Donc je suis très suivi dans tout ce truc-là. Donc ma psy me voit plonger. Comme il faut et surtout parler de sexualité et j'étais là mais ouais et j'essayais de coucher sur adopter un mec et j'essayais de baiser des meufs quoi parce que dans ma tête j'avais pas eu beaucoup de nanas quoi j'étais là en mode mais putain,
pas assez par rapport
par rapport à l'image que ce que je croyais être avoir une nana surtout que j'ai des nanas moi en plus qui étaient très ouvertes donc beaucoup de personnes dans leur vie et là j'y vais alors au début je suis sur adopter un mec et je voulais juste voir des meufs. Et alors, je faisais le pire truc pour que les meufs te sautent dessus, c'est-à-dire que j'arrivais et je leur disais, écoute, moi, là, je ne suis pas du tout là pour la baise, rien du tout, j'ai juste envie de t'entourer de femmes, je suis complètement détruit, et c'est un grand plaisir de passer une soirée avec toi, mais je ne suis pas du tout là pour... voilà, on ne va pas terminer au pieu ce soir, je te le dis tout de suite. Quoi.
Et donc ?
Meilleure chose à faire. Donc ça, c'est la meilleure technique de drague,
tips,
je vous le dis à tous. Si vous voulez vraiment être un enfoiré et mentir, c'est exactement ce jeu-là qu'il faut jouer. Mais bon, il y avait la vraie énergie derrière, donc forcément, c'était senti.
Okay.
Et il y avait vraiment cette énergie-là derrière, c'était vrai, hein, donc j'ai vu ce que c'était un peu des fois du côté de la nana en fait, invitée, un peu insistante. J'ai joué un peu le jeu de la nana sans faire exprès en fait, et à ce côté inaccessible en fait à ce moment-là. Le jeu de la nana, attention, je fais Tout ce que je dis, je le dis pour maintenant, toute généralité est enlevée de tout ce que je raconte.
Bien sûr. Voilà. C'est ton prisme, bien sûr.
C'est au vu de voilà. Et j'adore, je rencontre plein de meufs. Mmh. Et j'adore, moi j'adore, j'ai toujours été entouré de nanas quand j'étais ado parce que je me sens mieux avec les nanas. Parler de cul avec les mecs, je supporte pas ça parce que c'est phallocentré, performance, etc. J'ai toujours détesté. J'ai toujours adoré lâcher mon. Moi, l'autre fois, j'ai pas bandé. Comme ça calme tout le monde en soirée, mec. Tu vois,
waouh, il ose le dire.
Ouais, mais non, mais ça m'énerve en fait. Mmh. C'est ce que d'où le fait que j'adore ce que tu fais, puisque du coup, ça vient parler un peu plus en sérieusement profondeur. De tout ça. Ça manque énormément. Et donc, j'ai plein de discussions comme ça. Je rencontre plein de nanas. Je couche quand même avec certaines. Et là, arrive juste le moment où je me rends compte que j'arrive plus à bander en fait.
D'accord.
J'arrive plus à bander parce que j'ai peur. Je suis détruit par l'histoire avec Claire. Mmh. Sexuellement, je me sens sous terre.
T'es en pleine thérapie ?
Je suis en pleine thérapie. Et en plus, je me mets la pression. Mmh. Donc moi, en fait, j'ai tout ce qu'il faut pour ni jouir ni bander, c'est-à-dire ou jouir vite. C'est-à-dire qu'en fait, je suis flippé. Mmh. Je suis angoissé et je me mets la pression. Donc, tout ce qu'il faut pour ne pas lâcher prise, tout ce qu'il faut pas. Quoi. Mmh. Voilà. Et donc, ça commence à monter. Donc, au fur et à mesure des années, tu vois, c'est de pire en pire. C'est là
puis
où
en plus, tu changes de partenaire. Donc, t'as pas tellement le temps de prendre le temps d'être.
Et puis, je rencontre des gens malheureux aussi en face de moi. Bien donc, sûr. On se retrouve à deux à être malheureux.
Tu racontes toujours ton histoire ?
Pas toujours.
D'accord.
Non, là, on est sur plus du. Alors, j'essaie les one-shots. Hein, j'en fais très peu. Hein, ça m'intéresse pas. Et en fait, il se passe un truc très intéressant à un moment, c'est que j'écoute un podcast d'Arte Radio, je crois, sur la sexualité d'une nana qui a une sexualité très active. Mmh. Je l'écoute et là, elle dit le nombre de personnes qu'elle a eues dans sa vie. Et elle dit 50 mecs. Puis je fais, ah bon ? C'est tout ? Je fais, tiens, quoi c'est tout ? Je me dis, tiens, c'est quoi ? Combien j'en ai eu, moi, en fait ?
T'avais pas fait de calcul ?
J'avais jamais calculé. Et en fait, en gros, j'avance la question que tu aurais posée. Non, mais en fait, en gros, ça m'a fait beaucoup de bien en fait, de calculer. Parce qu'en fait, ça a montré à quel point je me mentais. Tu sais, quand ils faisaient les nanas qui se trouvent jolies, puis ils mettaient des nanas, tu sais, de plus en plus grosses, et puis ils disaient où est-ce que vous vous placez ? Tu
dans vois, ce belle toute nue.
Belle toute nue, voilà. Bah, moi, tu faisais ça avec le nombre de personnes qu'il fallait se taper, je me mettais dans la catégorie, genre j'ai eu 3 personnes, quoi. Je pensais avoir eu pas de personnes.
Pas assez, ouais.
Et là, j'arrive à plus d'une quarantaine, en fait.
Et tu te dis, en fait, ouais.
Et je me fais, mais qu'est-ce que je me raconte comme histoire, quoi ? Et comment j'ai pu croire ça ? C'est-à-dire que c'est fou le cerveau, comment il arrive à te faire croire ce que tu veux.
C'est,
quoi.
C'est pour ça que tu dis qu'il y a eu tout un nombre de nanas que t'arrives pas à...
Bah oui, c'est pour ça que c'était important de le dire, parce que je le voyais pas en fait. Elles sont là, hein, si je remonte là, en plus je me rappelle assez bien d'elles. Mais dans mon ressenti, elles n'existent pas. Et ça, c'était très bizarre, mais ça m'a fait beaucoup de bien de calculer. C'était pas pour faire genre, les mecs, parce que justement, je supporte pas ce truc de bonhomme, là.
Oui, mais c'était juste mettre un chiffre et les chiffres mentent pas.
La réalité, quoi. Ouais. Voilà. Et là, voilà, on calait ce truc-là. Et donc là, les problèmes d'érection commencent. Mais ce qu'il y a, c'est que de par le milieu dans lequel j'ai traîné, bah voilà, je connais le Cialis, je sais que ça existe. Je connais des pharmacies indiennes qui en vendent. Ne le faites pas chez vous.
Donc qu'est-ce que c'est ?
Cialis, c'est pas comme le Viagra. Donc le Cialis, c'est un médicament qui permet de bander quand on a du désir.
D'accord.
Donc, il est très bien, ce médicament. Donc si vous allez voir un spécialiste, je vous le conseillera.
D'accord, donc c'est une molécule qui t'aide à avoir une érection, mais il faut que ce soit motivé par le désir.
Exactement, donc tu vas pas bander pendant 4 heures.
Le Viagra, c'est automatique.
Voilà, tu vas bander et après, moi j'ai jamais essayé, mais ça fait mal, tu peux plus t'arrêter. Enfin bon, voilà, plein de choses comme ça. Là, tu le prends pendant 24 heures, s'il y a moyen. Et puis tu jouis, tu peux reprendre direct. Hein. Mmh. Voilà, c'est vraiment quelque chose qui est assez cool d'ailleurs, même dans des jeux sexuels, c'est suivi par un médecin, peut être très, très cool. Je pense. Et en tout cas, moi, je connaissais ça de ce milieu BDSM où, pareil, bah, en fait, il y a plein de gens qui arrivent
à bander. Ouais, ils se dopent un peu pour.
Ouais, puis il y a plein de gens qui ont peur, en fait. On est tous là, en vrai, quoi. Il faut arrêter de se mentir. Il y a énormément de gens qui sont avec leur peur et, en fait, c'est juste normal. Et en fait, en gros, bah, on m'avait conseillé ça une fois. On m'en avait filé une heure et demie. J'ai essayé. Ça avait grave marché. Je trouvais ça génial. Donc, j'en ai acheté. Et donc, ma sexualité tournait comme ça. Au moins, je me prenais pas la tête. Si je voyais une nana, c'est pas ma tête qui m'empêchait de bander. Je bandais. Voilà. Mm. Et j'avais un peu envie aussi d'être comme ce que je considérais. Moi, j'avais rêvé d'être une femme, en fait, quand j'étais plus jeune. Mmh. Pour plusieurs raisons. Une qui est que j'aurais certainement pas été abusée.
Oui, parce que tout à l'heure, tu parlais, tu as dit rapidement que ta mère a eu un autre enfant.
Ouais,
tu as une demi-sœur.
Une fille. Ouais. Et... Je pense pas que ça soit répété, non. Non, non, je pense pas. Non, je pense que c'était très spécifique à l'époque et le sexe que j'avais et le, comment dire, le fait que je sois un garçon, quoi. Le complexe d'Oedipe dans ce sens-là.
D'accord.
Je pense, hein, je veux
ouais, pas ouais.
Et Et du coup, je me sers de ça, en fait. C'est ma béquille, je l'utilise. Et en fait, je me rends compte qu'en en parlant... En fait, vu que je veux, depuis très longtemps, je me dis qu'en fait, il n'y a aucun homme qui parle de ça. Je suis celui qui saute dans le grand bain à chaque fois et je parle devant tout le monde. Quand je bande pas, je le dis. Dans les soirées, il y a des nanas, il y a des mecs, je m'en fous. Je le dis. Quand des mecs font leur malin en disant ouais, « j'ai baisé, j'ai pas fait machin », je peux bon, « moi, non, c'était un peu nanin ». Et voilà, puis je me rends compte aussi que les hommes savent pas dire si une nana a bien fait l'amour aussi ou pas. C'est tellement centré sur le... Ils sont pas capables de répondre
oui,
à ça.
Oui, sur leur éjaculation et sur leur...
Ouais, sur le fait qu'ils baissent, quoi. Tu vois, c'est déjà... Alors, bon, voilà. Bon, enfin, bon. Donc, tout ça, je l'amène. Donc, c'est me mettre en danger. Hein. Moi, je me mettre en danger. C'est dur pour moi de le faire, mais j'ai décidé d'être activiste là-dedans, en fait. Parce que si on bouge pas notre cul, personne ne le fera. Donc, voilà. Donc, je le raconte. Des gens m'en parlent. Je me rends compte qu'il y a d'autres hommes qui le font aussi, en cachette, bien sûr. Donc, je me rends compte que je suis pas tout seul du tout. Donc, c'est intéressant. Et là, je rencontre Émilie. Donc, là, ça va être un peu compliqué d'en parler.
Parce que...
Moi, je suis encore amoureux. C'est mon plus grand regret. Bon, grand regret jusqu'au prochain, mais c'est celui-là pour l'instant.
Donc, t'as quel âge, là, à peu près ?
Là, c'était... Là, j'ai 30 ans.
Donc, c'était il n'y a pas très
longtemps.
Non,
il y a 31 ans, peut-être. Ouais, 31 ans.
T'es ému, hein ?
Ouais. C'est très présent encore.
Ok.
Ouais.
Donc, tu rencontres Émilie par...
Par le biais des gens. Alors, c'est très rigolo. Par un couple qui sont dans le BDSM et okay. qui vont à un enterrement un jour et tombent sur cette nana... Et en fait, ils commencent à discuter, mais ils vont trop bien avec Erwan. Tous les deux, ils se le disent.
D'accord.
Parce qu'elle parlait de burlesque, elle faisait un peu de burlesque. Je dis, mais il faut qu'elle appelle Erwan, c'est pas possible. Elle m'appelle, bourrée, le veille de l'enterrement. Et j'ai une nana au téléphone que je ne connais pas, qui m'appelle et qui me dit, alors c'est toi, Erwan, qui habite dans un camion, qui fait la bouffe, qui fait du burlesque, machin et tout. Mais moi, je vais venir faire la cuisine toute nue sous mon tablier chez toi et tout. Là, elle m'enchaîne, elle est super pétillante à fond et tout. Donc ça, c'est vraiment. Moi, je suis là. Je suis dans un bar, je me dis, mais c'est quoi ce délire? C'est génial, quoi. Il y a une meuf qui m'appelle qui veut déjà.
Franchement, t'as rien à faire, c'est cool.
Rien à faire. On se rencontre. En fait, elle voyage beaucoup pour son boulot. Donc, du coup, on se rencontre et elle me dit, moi, je suis à Nantes un midi. Je fais, ok, je prends un train.
Ok.
Donc, je prends un train d'aller-retour pour un déj, pour la rencontrer. Ça match, bien.
Tu la trouves jolie?
Ouais. C'est vraiment un sacré canon. Et du coup. Plus âgée que moi, 3 ans de plus que moi, 3-4 ans de plus que moi, une femme, quoi, quelqu'un qui a roulé sa bosse, qui très intelligente, avec qui je peux avoir des discussions sur des choses vraiment profondes, la communication passe tout de suite. Je fais beaucoup moins mon jeu à ce moment-là, je suis dans le milieu BDSM et tout, sauf que là, malheureusement, je la rencontre par ce biais-là, donc elle le sait. Donc là, il est amené comme ça. Elle habite à Berlin. Bon, ça m'en fout en fait, ça me fait pas peur. Et surtout que c'est le moment où je commence à habiter en camion, donc en être nomade.
Ton fameux camion que t'as aménagé.
Voilà, exactement, dans lequel je vis depuis 3 ans, 4 ans maintenant. Mais bon, et on se revoit plus du tout parce que il lui arrive une couille en fait qui fait qu'elle peut plus être du tout dispo en fait. Une petite couille de santé, et donc voilà. Et au mois de septembre, je fais écoute, si ça te dit, moi je peux venir avec le camion, j'ai besoin de tester mon camion, de voir s'il roule bien. Je fais un Paris-Berlin là, je viens avec une pote, on doit se faire un festival de Shibari, je viens. Et j'y vais, et là on tombe amoureux de ouf. Moi je lui explique bien que je suis plus. Déjà que je suis monogame, etc. Parce qu'en fait j'étais venu avec une meuf qui est complètement polyamoureuse, qui était venue voir un couple d'amis avec qui elle est aussi avec le mec. Enfin, donc elle entendait tout ça, je fais voilà, elle va se croire.
Oui, elle va
croire que moi, elle machin. Moi elle m'a mis des petits. Ouais, voilà. Donc j'ai bien mis le truc. Et là c'était parti, quoi. Donc amoureux et tout. Et sexuellement, c'est quelqu'un de très ouvert. Tout en étant d'une douceur incroyable, donc vanille, mais qui veut découvrir en même temps tout ce que j'ai découvert, qui veut entendre. Moi, c'est on peut dériver sur des moments parce qu'on s'éclate, il y a pas de souci, quoi. Mais c'est juste moi, ma base, c'est tout doucement. Moi, c'est comme ça que j'aime faire l'amour, c'est dans la douceur, dans l'amour, dans le et même c'est pour 10 minutes ou pour 10 ans, hein, je m'en fous. C'est juste voilà qu'il y a quelque chose, il y a une connexion qui se crée. Et je suis pas un bourrin, donc voilà, c'est vraiment dans quelque chose. Et après, si on a envie de bourriner de temps en temps, c'est cool, tu vois, on peut s'éclater, mais bon, voilà.
Donc elle se reconnaît là-dedans.
On est très excités l'un par l'autre. Moi je trouvais qu'elle mouillait énormément. Elle m'a fait. Je fais putain, tu mouilles beaucoup quoi. Elle m'a fait non, mais d'habitude.
Non.
Non, mais là je crois qu'elle était très amoureuse. Et puis pareil, voilà, je lui parle de cul. Moi je lui parle de cul en fait. Donc en gros, et en plus elle est très cérébrale, donc très sur les histoires. Alors là, moi je racontais des histoires.
Ah bah oui, elle a dû être aux anges avec toutes
les histoires. Moi j'étais en voyage aussi avec le boulot. J'ai réussi à la faire jouir par en SMS quoi. Tu vois, genre on se racontait des quoi. Je lui racontais des histoires et il y a un truc qui. Et en fait, ce qui se passe, c'est que très vite, ça retombe un peu comme un soufflet aussi. Mais d'une manière un peu inattendue.
Tu reproduis le même schéma.
Ouais, ouais. mais d'une manière un peu inattendue. En fait, ce qui se passe là, c'est que je pars pour le boulot en Arabie Saoudite. Tournage de 3 semaines en Arabie Saoudite. Et du coup, on s'était monté à l'époque, il y avait du cul sur Tumblr. Maintenant, c'est fini.
Ouais.
Et on s'était monté une page privée Tumblr et on s'envoyait toutes les photos qu'on trouvait sur ce qu'on aimerait se faire.
D'accord.
Chaud.
Ok.
Chaud, parce que quand elle t'envoie des photos ultra chaudes avec, tu vois, un mec qui prend la nana d'une certaine manière ou machin, tu fais, putain, c'est ça qu'elle veut, quoi. Tu vois, je me branlais 3 fois par jour, j'attendais qu'une chose, c'est rentrer dans la chambre d'hôtel. Et donc là, une excitation de malade qui monte, quelque chose de très fort.
Mm-hmm. Comme... Oui, puis avec la distance, avec le...
Ouais, puis j'étais amoureux, quoi, très amoureux. Et en fait, il y a quelque chose qui se passe, c'est que commence à retrouver des sensations que j'avais retrouvées avant, pré-Pamela.
D'accord.
Pré-orgasme, là, qui allait vers l'orgasme. Je commençais les trucs qui montaient, quoi. Et là, c'est la catastrophe. En fait, on devait se rejoindre à l'aéroport Charles de Gaulle. On se prend une chambre d'hôtel pendant 2 jours. On se dit, voilà, là, on se rejoint. Là, ça fait 2 semaines qu'on se chauffe. C'est mort. On fait que ça. Et à un moment, elle m'envoie un petit mot, genre, ouais, viens, on envoie des trucs un peu moins porno. Là, on est parti super loin sur les trucs hardcore. Vas-y, on redescend sur des trucs. Et là, en fait, moi, ça me fait un choc. C'est comme si elle me disait non.
D'accord.
Et en fait, tout s'écroule, soufflait, quoi. Et là, je commence à être très en colère contre elle. Okay. Je ne comprends pas pourquoi. Ça monte.
Oui, parce qu'elle est dans son bon droit de vouloir que ce soit, que soit un peu plus soft.
Il n'y a aucun souci, ça n'a rien à voir avec ce qu'elle a demandé en fait. C'est beaucoup plus profond.
C'est quoi, c'est le refus,
ça n'a rien à voir en fait. Je pense que là on rentre simplement dans le grand. Là on va rentrer avec l'histoire avec ma mère en fait. C'est-à-dire qu'en gros ce qui se passe c'est que là ça retombe, c'est qu'en fait là ça va arriver. Je vais baiser comme un ouf. Et en fait je flippe total.
Mm.
Mais je comprends pas le flip qui est derrière, donc la colère se met à la place. Mm. C'est-à-dire que bon, voilà, c'est simple, hein, comment pas voir son flip, c'est de se mettre en colère. Hein. Et du coup, elle arrive à l'aéroport, elle s'attend à voir un mec
hyper content et tout.
Orni, mort et machin, et je fais la gueule. Tout de suite, en fait, on désamorce le truc, parce que je lui explique, je vois très bien ce qui se passe, tout de suite on en parle, je lui dis non, machin et tout. Sauf que ça casse tout. Et sauf que là, ça a cassé pour de bon un truc pour le reste de la relation, c'est-à-dire qu'en fait, on est passé, il y a eu un avant et un après ce moment-là, quoi.
Ok, vous avez pas réussi à surmonter ça ?
Non, je lui ai dit tout de suite, faut qu'on aille voir un psy de couple. Moi, je savais qu'il fallait voir un petit couple. Je fais, moi, ce qui est en train d'arriver là, je pense que ça va pas être surmontable comme ça. Elle a pas voulu, pour elle a trop de fierté à ce moment-là pour ça. On en a vu un à la fin, mais c'était trop tard.
Mmh.
Et ouais, il y a eu un avant et un après. Bah, la pauvre, t'imagines. Quoi.
Oui, mais surtout qu'en plus, son déclencheur est vachement difficile à quantifier. Enfin, tu vois, pour elle, elle a eu une réaction.
Ah, non, mais surtout que je crois qu'on n'a même pas trop parlé de ça.
Ouais, ouais.
Je crois qu'elle c'était même pas le sujet.
C'est ta réaction.
C'est ma réaction. Je lui ai dit, écoute, je sais pas pourquoi je suis comme ça. Il y a un truc qui va pas. Et en fait, elle avait déjà vu que j'avais des allers-retours un peu. Et en fait, je me rends compte, là, on peut retourner en arrière. Je me rends compte qu'en fait, c'est présent dans pratiquement toutes mes relations, ça, en fait. Et en fait, ce qui s'est avéré en fouillant en thérapie, c'est que, en fait, je me suis souvent inventé quand j'allais pas aborder la nana, c'est que j'avais peur de faire l'amour, que ça me faisait un peu peur, donc j'allais pas aborder la nana dans les bars, les machins. Alors, il y a de ça. Mais en fait, ce dont j'ai vraiment peur,
c'est... Ce qui arrive à tout le monde. Enfin,
bien sûr. Oui, tout à fait. Mais en fait, ce qui est très spécifique, à force d'avoir eu plein de nanas différentes, de voir comment c'est passé, c'est que j'ai une peur panique de la pénétration.
D'accord.
C'est la pénétration, en fait, qui m'amène une peur panique.
Cette fameuse pénétration qui...
Qui n'avait jamais eu lieu avec ma mère, etc. Donc je pense que là, il y a un lien, quoi. Je pense pas. Maintenant, c'est pratiquement sûr. En thérapie, on a beaucoup avancé là-dessus. Et très fort, en fait, par rapport à ça. Et là, qu'est-ce que j'allais faire pendant deux jours dans un hôtel? Mais on allait se pénétrer comme... Ouais, tu vois, c'était parti pour que ça soit ça, quoi. Puis on avait un rapport très, très sur la pénétration avec elle. On n'arrivait pas à se retenir, en fait. Et du coup, bah voilà, ça a vraiment cassé quelque chose. L'histoire est tombée de plus en plus. On a quand même réussi à tenir. Je suis parti à Berlin avec mon camion habiter là-bas, mais c'était très compliqué. J'étais fou amoureux d'elle, et je l'ai quitté une première fois après quand on est parti en voyage au Japon. On s'est remis ensemble un mois et demi après. Je suis reparti à Berlin. Et je l'ai requitté après une fois quand on était en vacances l'été, il y a un an et demi en fait.
T'arrivais pas?
Je sais pas ce qui se passe à ce moment-là.
Ok.
Il y a un truc où je peux plus, en fait. Il y a un truc où mon cerveau, il voit que les défauts et il y a une espèce de protection qui se met en place.
Et elle a pas su...
Non, parce que ses soucis à elle étaient pas compatibles avec les miens à ce moment-là. Elle avait pas... C'est un sacré paquet, faut se taper quand
ça
s'entraîne.
Ah oui, c'est...
Donc voilà, elle a été très présente. Très bienveillante. Elle était d'une patience avec moi. Quand je vois, sans rien de grave hein, que je lui ai fait, mais quand je vois comment j'étais, quelle personne j'étais, je fais, mais moi, je me serais pas supporté à des moments. elle m'a appris ce que c'était qu'une femme bienveillante.
Et ça, scène. Incroyable.
Ouais. Et tu vois, j'en pleure. Donc, et du coup, bah, malgré ça, en fait, je me suis dit, putain, mais c'est pas ça. Donc, malgré, voilà, j'ai tout fait. Les nanas pas claires, j'avais de bonnes raisons de pas être avec elle et de pas être bien avec elle. Les certaines autres aussi. Et entre-temps, il y avait aussi Natalia, une autre brésilienne qui, pareil, c'était j'avais choisi au moment de sa vie où il fallait pas, elle était adorable, mais c'est un moment où il fallait surtout pas être en couple avec elle.
À chaque fois, de toute façon, tu vas dans des moments, voilà. Bien sûr.
Et là, c'est la première fois que voilà, je tombe sur quelqu'un qui est dispo, qui sexuellement est opérationnel, dans le bon sens du terme, dans le sens qui est fidèle, qui me fait pas peur sur ça, qui est très rassurante, mais voilà. Et donc, je me rends compte qu'en fait, quoi qu'il arrive, ça va pas. Donc là, c'est bon, j'ai fait le tour, le souci vient de moi, quoi. Donc, qu'est-ce qui se passe, quoi? Et là, depuis, Emily, une fois qu'on s'est quitté, donc elle est revenue, en fait, là où j'habitais. Pendant une semaine après, parce qu'il y avait des stages à côté qu'elle voulait faire. Donc, on s'est vu, on a un peu remis le couvert, mais c'était trop tôt. Et là, à partir de là, c'est la descente là, dont on parlait un peu tout à l'heure. Là, ça commence. Donc là, c'était il y a un peu moins d'un an.
Ouais,
quoi.
Ça, il y a peu de temps. Ouais.
Il y a un an et trois mois. Quoi. Je m'en mets sur Adopte un mec, comme d'hab. Je regarde des meufs et tout, je tombe sur une nana avec qui ça pourrait se passer, elle vient chez moi, je bande, pas de soucis, par contre pas de pénétration, mais je bande, on s'amuse, elle était ultra ouverte niveau cul, je pense qu'il y avait moyen de faire des trucs de ouf avec, mais il y a un truc qui passe pas psychologiquement, mais qui était là, c'est logique, quoi, il y a un truc qui avait une bonne raison. Donc elle rentre chez elle, on se revoit plus. Entre temps, mon amour pour Emily remonte fort, en fait je croyais que c'était pas le cas, mais genre, alors que c'est moi qui l'ai quitté, hein. Mais bon, en fait, moi, je l'ai pas quitté parce que je l'aimais plus. Je l'ai pas quitté parce que je pouvais pas tenir une relation bienveillante. Quoi. Je pouvais plus tenir les rênes d'une relation bienveillante. Donc, voilà. Moi, c'était no way que je recommence à être malveillant. Donc, en tout cas, même inconsciemment. Donc, c'est pas possible. Elle me recontacte. On se voit. Je lui explique tout. Et elle me dit qu'elle est comme moi, mais que c'est pas avec moi qu'elle veut refaire ça. Gros choc. Quoi, gros choc? Voilà, très grosse tristesse. Et là, je pars voir une amie, Maeva, que je vais voir à Barcelone. Très belle nana, méditerranéenne. Mais j'ai toujours vu en tant que pote, parce qu'on était toujours en couple quand on s'est vu. C'était une serveuse dans un bar où j'allais très souvent. Et du coup, j'allais juste voir une pote, moi. J'ouvre la porte. La bombe barcelonaise, là, bronzée comme pas possible. Prof de yoga maintenant et tout. Enfin, moi, je fais wow. Là, je regarde. Et en fait, je pense que je le savais inconsciemment, parce que je commence à avoir des courbatures depuis la veille, comme une espèce de grippe de ouf. J'arrive. Super journée, on se rapproche petit à petit, câlin, machin et tout, ça se touche, machin, et le soir arrive, et là, impossible de bander. D'ailleurs, il reste une semaine là-bas, impossible de bander. Je me tape déjà 3 jours comme malade, donc c'est-à-dire avec des courbatures partout, mon corps qui me lâche complet. Elle, adorable, et pas le mode, t'inquiète, c'est pas grave, pas le côté, non, une femme qui te parle comme beaucoup de, j'aimerais que beaucoup de femmes puissent parler aux hommes, parce qu'il y a ça aussi un souci, ça, c'est que les hommes savent pas parler aux femmes, mais les femmes savent pas trop parler aux hommes.
Pas toujours.
Et oui, pas toujours, bien sûr. Et là, la preuve que non, puisqu'elle a très bien fait. Et du coup, je lui explique, je lui fais, écoute, je suis désolé, c'est pas toi, mais c'est que là, je sais pas ce qui se passe, mais il y a un truc qui va pas. Et donc là, je me rends compte qu'en fait, voilà, il y a un vrai souci avec. Là, c'est là où le sujet de la pénétration arrive, parce que c'est vraiment la pénétration. Je me rends compte que la nana d'avant, je l'ai pas pénétrée alors qu'on a eu du sexe. Là, elle, en plus, elle aime ni le cuni, ni les préliminaires. Elle aime que la pénétration, elle. Okay. Donc du coup, là, j'étais en mode, c'est mort.
Ouais, c'est pas très compatible pour le coup entre.
Déjà, et en plus, oui, et en plus, avec là, ce qui se passe pour moi à ce moment-là, quoi. Et sachant que j'avais décidé de plus prendre de pilules, puisque je voulais gérer ma sexualité sans ça, et que deuxièmement aussi une petite phase aussi pour ceux qui peut-être ont les mêmes problèmes que moi à ce niveau-là, etc. Moi, Emily, en fait, au bout de 2 mois de relation, on se voyait de temps en temps, parce qu'on n'était pas dans la même ville. Je lui ai dit que je prenais ces pilules-là, et sa réaction a été géniale. Elle m'a dit merci, parce que grâce à toi, on a une sexualité depuis 2 mois qui est super. Et que t'as pris en main ta sexualité plutôt que
de t'as pas attendre, ou passer le truc comme si.
Ouais, elle m'a dit merci de prendre en main ta sexualité parce que c'est très important pour la nôtre aussi.
Bien sûr.
Et du bon jour en main, j'ai plus pris de pilule puis je bandais, quoi. voilà, simplement.
Comme
hein.
Quoi.
De toute façon, je bande le matin parce que je me suis posé les questions. Je bande le matin.
T'as allé voir les médecins ?
Non, pas encore. Non. Y avait le fameux site là. Ouais. Y avait super. Je suis allé voir. J'ai pas pris rendez-vous encore. Ouais. Charles.co, hein, c'est ça.
Ouais, Charles.co.
Donc je voulais prendre un rendez-vous, j'ai pas encore fait, mais ça va se faire.
Cool.
Que j'arrête de bouffer les pilules indiennes, parce que bon, c'est pas les molécules qu'il y a dedans.
Ouais.
Voilà, que si je dois avoir du Cialis, qu'il soit.
Oui, et puis surtout essayer de. Enfin, tu fais tout le travail psy, mais effectivement, il y a peut-être sait-on jamais, tu vois, c'est bien de voir un spécialiste.
Tout à fait. De toute façon, je sais que ma psy est relativement spécialisée aussi en sexologie aussi, donc voilà, il y a, okay, une approche. Voilà, mais de toute façon, moi, ça me va très bien d'aller voir un urologue, un andrologue. Un médecin spécialisé en tout cas là-dessus. Donc voilà, c'est aussi pour dire ça. Ce témoignage, il est pour moi important parce qu'en fait, les femmes peuvent l'entendre. Beaucoup peuvent l'entendre. Et plus je suis vulnérable, plus j'ai des femmes qui sont capables de l'entendre. Moins je joue un rôle, plus en fait, là, les choses se passent, mais crème en fait. Et les peurs s'en vont l'une après l'autre. Bon là, je suis dans une terreur pas possible puisque ça continue, mais là, je gère autre chose. Je gère une situation liée à l'enfance. Et donc, il y a eu donc c'est Maëva, cette amie que j'ai vue à Barcelone. Et je suis un peu deg, quoi. Je suis vraiment deg. Et puis là, Émilie, on se recontactait un peu. Elle me prend la tête parce que je lui ai demandé de ne pas se reparler, etc. pendant un moment. Mais elle me prend la tête et là, ça me fait du bien parce que du coup, je l'oublie. Je fais, putain, elle est relou, c'est bon. Je lui dis, écoute, là, j'ai plus envie de parler. T'es agressive. Et... elle me recontacte quand même en septembre où elle me dit que voilà, elle est vraiment désolée de m'avoir parlé comme ça, etc. Que c'est toujours compliqué pour elle de penser à nous. Merci pour cette petite graine
que tu mets,
que j'ai mis dans ma tête et qui est en train de ressortir sévère. Putain. Enfin bon, voilà. Et là, donc dans le lieu où j'habite, donc là on va faire très simple, le centre de méditation et de yoga qui est à côté de chez moi. Moi j'y suis très souvent et je vois une jolie femme qui est là. Et là.
Tu tombes amoureux.
Mais genre le truc, mais putain, mais comment 40, génial quoi, vraiment. Mais et donc là, mais alors complètement terrorisé, impossible d'aller lui parler. Déjà, je sais pas aborder la nana comme ça. J'ai jamais abordé la nana dans un bar, quoi. Ça m'arrivait une fois dans ma vie, quoi, voilà. Et là, j'ai une équipe de meufs autour de moi, toutes mes potes qui sont en mode love team. Et genre, il y en a une qui était dans le dortoir avec elle pendant le stage, qui se renseigne, l'autre qui était machin, l'autre nanana.
On t'est aidé.
Ah, je suis aidé, mais c'était génial, c'était beau comme
genre
moment.
La sororité.
Ouais, exactement, sororité. Puis moi qui me sens très proche des femmes, qui était toujours été très proche des femmes, ça a été un très beau moment de sororité. Je me sentais très sœur à ce moment-là, vraiment plus que. Et dans ma masculinité, parce que c'était pour aller en
bien
plus
sûr
draguer une très, elle est magnifique, Elodie, d'une douceur, quelqu'un qui a connu très peu d'hommes, vraiment là on est à l'opposé de tout ce que j'ai connu comme femme. Dernier jour, elle est à son stage, je me dis putain c'est le dernier jour, j'habite juste à côté, faut que je lui dise, écoute je vais la voir, je fais écoute je te vois depuis machin, est-ce que ça te dirait de juste te filer mon numéro, je veux surtout pas t'embêter, je suis un peu déstabilisé, j'ai beaucoup de mal à venir te parler, donc voilà. Elle me dit ok. Et en fait, en fin d'après-midi, je savais qu'elle devait se barrer assez vite. Je fais, écoute, si tu veux venir prendre un thé à la maison avant de te barrer, vas-y, viens et tout. Et elle dit oui. Je reçois un SMS où elle dit oui. Donc elle passe à la maison. Elle est partie, elle devait partir tôt. Elle est partie à 23h30. Elle rentrait à Bordeaux. Enfin, moi, elle avait 2 heures de route et tout. Et il y a une histoire qui s'ensuit. On se revoit. Là, il s'est rien passé. Et on se revoit. Il se passe quelque chose et pareil. J'arrive pas à coucher avec elle, quoi. J'arrive pas. Je lui explique. Là, en fait, j'ai décidé dans cette relation de me mettre complètement vulnérable. Et c'est la première fois de ma vie.
T'as lâché les armes.
J'ai pas joué le jeu, elle connaît rien de ma vie au niveau du BDSM, etc. Je lui ai rien raconté. J'ai joué sur ce qui se passait à ce moment-là, c'est-à-dire.
Sur l'instant présent.
Ouais, j'étais. Voilà, je lui ai dit, écoute, là, moi, je suis ramassé à ce niveau-là. Je sais pas où je suis. Je sais pas quel homme je suis. Je suis perdu sexuellement parlant. Je suis perdu là-dessus. Et elle aussi, d'une certaine manière, de son côté. Mais pareil. Alors déjà, j'ai fait un rêve avec Émilie pendant que je dormais avec elle. Et ça m'a foutu un coup. Et sur le coup, je me dis. C'est aussi parce que je suis en train de tomber amoureux, donc c'est bien, c'est une espèce d'adieu, de machin, etc.
Mais sois pas trop dur avec toi-même, non
plus. Non, mais c'est pas grave, non, je m'en veux pas du tout, non, mais je me dis putain, putain, dans le sens, j'ai pas envie de penser à ça maintenant, quoi, tu vois.
Ouais.
Et en fait, je me dis que c'est ça, et je sais pas si c'est ce qui a fait tomber les soufflets, mais en tout cas, elle est venue en week-end à Paris pendant que je bossais, et le soufflet est retombé d'un coup, et je lui ai dit, et là, j'ai fait, et là, je me suis pas accroché. En fait, ça a duré 3 semaines entre nous.
Mais le temps que ça a duré.
Et voilà, là je lui ai dit tout de suite, écoute, là je vais pas m'accrocher. Je sais ce qui va se passer, là j'ai besoin d'être seul. J'ai besoin de gérer ça seul. Il y a des gros problèmes qui sont là. En fait, je lui ai fait un c'est pas toi, c'est moi, mais extensif.
Mais c'est vrai.
Avec la réalité. Parce que le c'est pas toi, c'est moi sans rien dire, il est un peu dégueulasse.
Parce que depuis le début, c'est intéressant parce que en fait, ça a deux vitesses, c'est-à-dire que. Quand tu n'es pas dans la thérapie, dans la réflexion, etc., tu n'as aucun problème avec ta sexualité, tu bandes, tu baisses, tu fais l'amour, tu es curieux, tu es machin, etc. Et tout est OK. Et ton corps est OK. Et voilà, la connexion se fait. Et quand tu commences à rentrer dans le dur, bon après, c'est, je pense, somme toute logique, mais quand tu rentres dans le dur.
Ouais, j'ai pas osé la faire.
L'humour, avant tout. quand tu commences à ouvrir la boîte de Pandore, à sortir, à commencer à décortiquer, à vraiment être chirurgical avec ton inconscient, enfin tu vois tout ça, bah là effectivement la connexion ne se fait plus.
Bah oui, parce qu'en fait, là, j'ai quelque chose à, il y a quelque chose à remettre en place.
Ouais.
Et cette peur de la pénétration, là, elle est en fait présente depuis toujours.
Toi, t'es comment avec ça, avec toi-même? Tu t'es en colère avec toi-même? T'es en paix avec ça? Tu te dis que c'est ton chemin? T'as peur? T'es comment?
Je suis pas en colère contre moi. Alors, j'ai honte. C'est la honte. Beaucoup de honte.
Pourquoi?
Beaucoup de honte de pas bander, beaucoup de honte de jouer. Alors, et ce qui explique la pénétration. J'ai peur de la pénétration. Donc, pas bander, c'est le meilleur moyen de ne pas y aller. Tu es d'accord? Et jouir vite, c'est le meilleur moyen de ne pas y rester longtemps.
Ouais.
Et donc, en fait, j'ai vu qu'en fait, ce problème-là dont j'avais peur n'était pas trop venu en fait, du... J'ai pas de problème d'éjaculation précoce. En fait, c'est jamais précoce vraiment. Médicalement, c'est pas précoce, mais c'est rapide quand j'ai peur. Et du coup, bah, je me suis rendu compte qu'en fait, je croyais que j'avais peur de jouir vite ou de pas bander, mais en fait, non, c'est pas ma peur. Ma peur, elle est de pénétrer, en fait, qui crée ces problèmes de quoi, ces problèmes, ces aléas, disons, de d'érection et de jouir vite, en fait, parce qu'en fait, ça sent mal, je suis pas détendu. Il y a plus de détente du tout. Et en fait, c'est de pire en pire, là, tu vois. Et c'est,
parce que c'est l'accumulation de stress et de...
Et puis de rater, de machin, de...
Et puis de, comme tu changes de partenaire, de la décevoir à chaque fois. Ah, de devoir,
exactement. Voilà. Donc, c'est assez compliqué à gérer. Mais en même temps, je suis content que ça vienne comme sujet. Parce que sans que ça vienne, je serais resté dans des bouts de ficelle, quoi.
Et une sexualité sans pénétration?
Alors là, on y vient. Et là, on va faire des bons en arrière. Quand j'ai vu coucher la première fois avec Flora, j'ai vu que j'étais nul. Et là, j'ai fait, mais attends, mon pote, il y a plein de trucs qui doivent exister. Et là, je découvre, je vais à la Fnac et je m'achète un livre sur le tantra.
Ah, ok.
Un livre génial, qui n'est pas du tout le tantra, parce qu'en fait, c'est un truc allemand avec des photos, mais je l'ai encore. Il est
Collector
et surtout... tellement beau parce que tout est sur le soft sex en fait, tout est sur la sexualité sans pénétration, ce n'est qu'une finalité qui peut être mise en exergue, mais c'est tout. Et du coup, c'est génial, moi je vois tout ce monde du préliminaire, de comment ça se passe, etc. Et je trouve ça extraordinaire et c'est devenu ma bible en fait, ce truc-là. J'essaie de m'entraîner à travailler mon périnée, il y a plein d'exercices comme ça, j'essaye. Et du coup, je suis fan de préliminaires parce que du coup, c'est tellement mieux. Bah, t'as pas besoin de demander, hein, quoi, tout va bien. Mais j'ai perdu ça avec le temps, en fait. Et je sais pas ce qui s'est passé. C'est une question que je me pose depuis, mais genre deux, trois jours depuis que je me pense que je viens ici et que je me remets. Parce que malheureusement, je pense un peu trop. Et donc, du coup, j'ai dû refaire 50 fois notre séance. Qu'est-ce que je vais dire? Comment je vais le dire? Etc.
Bien sûr.
Du coup, des questions se sont élevées en même temps. Et c'était ça. Mais comment j'ai perdu ça? Et en fait, je me suis rendu compte, par exemple, que quand j'étais avec Émilie, elle aimait pas être doigtée tout court parce que ça lui faisait mal. Donc je l'ai plus fait du tout. Donc déjà, ça enlève quelque chose que j'aimais beaucoup faire. Et je me rends compte que je suis super gauche maintenant. Ça fait des années que j'ai pas pratiqué, donc je suis méga gauche, tu vois.
Ça revient, c'est comme le vélo.
Ah oui, y a pas de souci, je m'en doute pas. Mais c'est comme il y avait un manque de confiance qui, en même temps, là, alors la manque de confiance plus manque d'expérience, tu remontes tu redescends dans le truc. Mais et du coup, tout ça, voilà. Donc j'adore les préliminaires en fait. Et là, j'y reviens. Je me dis, mais comment t'as perdu ça? C'est la solution à tout ça en fait. C'est-à-dire que on s'en fout de la
perdre du slow sexe en fait.
Mais ouais, grave quoi. Puis moi, quand je compte les nanas avec qui j'ai eu du sexe, c'est pas pénétration hein, quand on compte les gens. C'est les gens avec qui j'ai fait du sexe, que j'appelle du sexe. Et en plus, avec tout ce que j'ai vu, j'ai bien vu que la pénétration est souvent été même carrément pas du tout utilisée dans le milieu BDSM, quoi. Très peu utilisée. Donc du coup, voilà. Et il y a une autre chose, un autre site que j'adore, je sais pas si tu connais, c'est Oh My God Yes. Voilà. J'ai adoré parce que j'ai trouvé ça génial. J'ai appris des choses dessus extraordinaires aussi. Donc du coup, voilà, à mettre entre toutes les mains après 18 ans pour les hommes et pour les femmes sûrement. Donc je m'intéresse beaucoup techniquement comment ça se passe, etc. Et donc je suis vraiment... je sais pas comment j'ai perdu ça en fait au fur et à mesure.
Ça va peut-être revenir aussi, tu sais, c'est cyclique et puis ça va dépendre de tes partenaires, etc. Là aujourd'hui, t'es comment par rapport à ça? Donc tu disais que c'est le désert de Gobi.
Super mal à l'aise.
C'est hyper courageux de venir en parler en plus aujourd'hui.
Ouais, bah c'est marrant, c'est là où ça me fait mon mot. En fait, j'en ai tellement parlé dans des situations où ça devrait surtout pas se faire. C'est genre en mode salut, genre voilà, c'est ça. Et que là, ça va en fait. Parce qu'en plus, il y a un but pour moi d'être là. Tu vois, il y a quelque chose, je veux participer à ce discours qui s'élève en ce moment pour une révolution sexuelle masculine. Parce que moi, je me sens autant victime, non pas par les actes, mais que les femmes, que les hommes, ce qu'ils nous ont foutu dans la gueule, quoi, tu vois. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, j'ai la plupart de mes potes, on n'est pas du tout machiste ni misogyne, mais on se bouffe tout ce qu'on nous a mis dans la tête, en fait, quoi. Tu vois, ce truc de sois un homme, bande, c'est comme si... Et les nanas l'ont encore. Moi, j'ai eu des nanas, la plupart sont féministes, Et malgré tout, il y a des choses qui sont pas très aisantes dans le sexe par rapport à ça, parce qu'on se rend compte que même dans la sexualité, ça revient énormément. Ça, voilà. Et j'ai aucun jugement là-dessus. Hein. C'est pas du tout un problème.
Et même le mot préliminaire, tu vois, il est injuste.
Bah oui, parce qu'on le met, c'est-à-dire qu'on le sépare.
Oui, on le sait pas. Surtout, c'est avant et ensuite la pénétration qui serait la finalité, alors qu'en fait, c'est du rapport sexuel.
Tout à fait.
Dans le rapport sexuel.
Et puis du coup, moi, ce qui bloque la sexualité quand je suis en couple, c'est que le sexe, c'est du réveil au matin jusqu'au soir. C'est-à-dire que c'est comment on se comporte, c'est comment on accepte l'autre, comment on lui parle, comment on le regarde, quel mot on va utiliser dans la journée, soi-même comment on est excité sans le dire. Il y a des énergies qui se créent, qui vont créer une sexualité autour de ça. C'est 24-24 en fait. Là, c'est 24-7 là, du coup. Et dans le sens vraiment juste... Et même si c'est pas tous les jours, c'est pas pour que ça baisse tous les jours. C'est-à-dire que c'est dans le sens juste que ça va se jouer comme ça. Mais par exemple, moi, quand tout s'effondre comme un soufflet, du coup, il n'y a plus ça, tu vois. Tu perds tout ce truc-là. Donc finalement, il y a tout ça qui s'effondre, dont les préliminaires, dont tout, en fait. Et je sais pas comment gérer aujourd'hui. Donc on arrive à aujourd'hui. Aujourd'hui, comment je me sens? Je me sens mal à l'aise avec ma sexualité.
Ta libido?
Elle est très particulière. Il y en a une sans en avoir. C'est très bizarre. J'ai arrêté de me masturber. Parce que je trouve que ça va pas avec la période là. Du coup, j'espère des choses, donc je remets de l'espoir dans des choses qui pour l'instant n'arrivent pas, donc ça crée de la souffrance autour de ça. Alors j'accepte aussi depuis quelques temps aussi à quel point je suis sensible, qui je suis dans cette sensibilité là. Je me suis énormément protégé, forcément avec tout ce qui m'est arrivé, voilà. Je me sens pas très bien dans ce monde là en vrai en général, donc là tout est un peu, voilà, je me suis protégé normalement, donc là je me prends un peu la non-protection. Qu'est-ce que c'est que de vivre avec de moins en moins de protection? Du coup, je sais pas trop cette libido où elle est. J'ai envie de faire l'amour, j'ai envie de rencontrer quelqu'un, mais je me rends compte que quand je le fais, ça marche pas. Donc je pense que c'est du fantasme de croire que je vais y arriver là pour l'instant. Ça me met mal à l'aise à des moments quand j'entends des gens parler de ça, machin et tout. Moi je me dis putain, ça va jamais. Mon fond d'écran de mon téléphone, c'est mon chat. Je vais mourir, il va me manger.
Tu vois? Alors non.
Non, non, je sais.
Le chat ne va pas te manger. Il est très mignon, ce chat.
Bon, voilà, donc voilà, aujourd'hui. Et en fait, je suis plus en manque d'affection aujourd'hui que de sexe.
Et la place pour une femme dans ta vie aujourd'hui, dans ton quotidien?
Ouais. Pourtant, il y a beaucoup de. Mon quotidien. Je fais en autoconstruction ma maison, hein, donc je peux dire que le quotidien, il va être chaud. Mais voilà, entre ma vie à Paris, ma vie dans Dordogne et tout, oui, je pense que je peux laisser de la place, mais en fait, je cherche plus une relation un peu à distance, je pense. C'est ce qui me plaisait avec Elodie qui était à Bordeaux et moi. J'ai envie, en fait. Je suis très en manque d'affection. C'est vraiment le truc qui me manque le plus aujourd'hui, c'est du contact, en fait. Et en fait, malgré que Émilie a été la femme la plus gentille que j'ai connue, je sais pas ce que c'est quelqu'un de vraiment gentil, j'ai l'impression. Puisque on a tellement pas été gentil avec moi, en fait. Et j'utilise le mot enfantin exprès parce que c'est vraiment ce qui m'a suivi. C'est-à-dire que, ça se trouve, elle est très gentille, Émilie, vraiment, mais peut-être pas assez pour moi. Tu vois. J'en sais rien, hein, c'est que des suppositions. Et du coup, aujourd'hui, je crois que c'est de la gentillesse que je cherche. Je cherche quelqu'un de doux, de gentil. Et surtout, je me rends compte que j'ai cherché des schémas de nana qui sont peut-être pas bons pour moi, en fait. Parce qu'en fait, moi, j'avais un schéma de moi-même qui n'était pas franc avec ce qui se passait au fond. Et donc, aujourd'hui, je me découvre complètement. C'est une espèce de page blanche complète. Donc, c'est beau parce qu'il y a tout à réécrire. C'est génial. Mais quoi, tout à réécrire, c'est pas vrai. Il y a toujours le reste est toujours écrit là. Mais il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de place qui se fait. Et qui je suis là-dedans, je suis complètement paumé, en fait. Ma sexualité, c'est quoi? Je suis complètement paumé. Je suis autant aujourd'hui excité quand j'y pense par un truc complètement, mais alors plus que vanille, quoi. Un truc gnangnan au possible et qui me ferait du bien,
tu
peut-être.
C'est de la rom-com qui te font du bien.
Ouais, un truc genre voilà ou voilà. Et en même temps, dès que je pense à soumettre une nana, en ce moment, ça m'excite à mort. Tu vois, donc je suis vraiment dans tous les...
Dans les extrêmes?
Non, non, parce que de la façon de la soumettre n'est pas forcément extrême. Non, 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 pas dans un truc BDSM soft, quoi. Vanille pimentée.
Vanille pimentée. Ok.
Habaneros.
D'accord, parfait.
Chocolaté. Non, mais voilà. Et donc, du coup, il y aurait. En fait, la note positive dans tout ça, ce qui, moi, me. C'est que j'ai 34 piges et je me suis posé toutes ces questions. Et là, je suis là.
C'est extraordinaire.
Et j'ai la vie devant moi.
C'est extraordinaire.
Et en fait, j'ai la vie devant moi. Et ça, moi, c'est ce qui me. J'ai putain de 34 ans et ça se trouve, j'ai toute ma sexualité devant moi. Et ça,
c'est ça.
Ça me fait du bien, tu vois. Ça me fait du bien. Pas parce que ça me fait bien de le dire alors que c'est pas ça. C'est que je m'en rends pas compte à 70 piges, et j'ai fait une thérapie au moment où il fallait, j'ai bossé, je bosse comme un acharné dans cette thérapie pour pouvoir que ça avance. Mmh. Au départ, je l'ai fait parce que je voulais des enfants et que je voulais surtout pas réitérer des violences sur eux. Alors pas sexuelles parce que je savais que ça n'arriverait pas, je voulais juste, par contre, mettre au clair les limites en moi. Par contre, pas être sûr que voilà, mmh, j'ai tout bien en place. Aujourd'hui, les enfants, c'est pas, je sais pas si ça arrivera.
Voilà. Oui, c'est pas la priorité, c'est pas en la tout priorité. Cas.
Puis bon, on a la chance les hommes d'avoir plus de temps en tout cas si on veut des enfants qui sont de notre corps.
J'ai lu une étude comme quoi la maturité émotionnelle des hommes était à 43 ans. T'as encore 9 ans.
Non, mais tout va
ok.
Bien. Et tu sais qu'en plus moi je fais un truc super positif, c'est que je change tellement de vie souvent que je me dis putain j'ai changé de vie il y a un an, jusqu'à ce que je meure je peux recommencer 40 fois.
Ouais c'est génial. C'est
donc
génial.
À chaque fois il y a ce truc là. Donc ce qui se passe pour moi là c'est que c'est très dur à vivre au quotidien. Quoi très dur à vivre au quotidien? Quand j'y pense, c'est très dur. Mon quotidien, ça va. Mais bon, j'ai mon acupunctrice qui m'a dit « Arrête de relativiser, bordel, t'as le droit d'aller mal. » Elle me dit ouais. Ça. Donc elle m'a prescrit 2 jours de film triste, ce que j'ai fait. Ça m'a fait du bien.
T'as pleuré?
J'ai pleuré pendant 2 jours. Alabama Monroe, les gars, si vous voulez vraiment mourir de tristesse.
Ouais.
C'est un film le plus beau film que j'ai jamais vu depuis longtemps. Enfin bon, voilà. Donc là, aujourd'hui, bah, je cherche pas trop. Mais en même temps, j'ai tellement envie de me mettre en couple, j'ai tellement envie de vivre avec quelqu'un. Mais du coup, la question, c'est pourquoi, quoi? Qu'est-ce que ça vient combler? Et je me suis rendu compte surtout que j'étais énormément en couple pour moi. Beaucoup pour moi et pas beaucoup pour l'autre. Alors en surface, oui, énormément de générosité, plein de machins et tout. Mais au fond du fond du fond, est-ce que je suis là pour l'autre aussi? Je suis pas sûr en fait. Il y avait tellement de souffrance à colmater que j'ai quelque part. Et là, on rentre dans les tréfonds. Hein, c'est pas ce que j'ai fait consciemment, mais j'ai utilisé beaucoup de situations et beaucoup de relations pour pouvoir combler des énormes souffrances en fait. Et donc aujourd'hui, il va falloir une ouverture vers une générosité profonde en fait, à m'intéresser à l'autre réellement.
T'es prêt à ça?
Non, non, non. Non, non, pour plusieurs raisons, c'est qu'en fait, il y a plein de nouvelles définitions aussi de moi qui sont en train de se mettre en place. Il y a plein de choses, des schémas de pensée que j'ai besoin de confirmer ou pas. Donc ça, c'est en cours. Et en fait, ça m'a fait penser à une chose, c'est qu'en fait, je cherchais des schémas de nana, en fait, un peu particuliers. Et même aujourd'hui, même si c'est plus ma mère, je cherche des schémas nana comme ci, comme ça, avec ça. Et en fait, je crois que maintenant, ce que j'ai envie de chercher, c'est un schéma de pensée. Qu'elle ait 20 ans ou 40, qu'elle soit n'importe où, je m'en fous. C'est un schéma de pensée, je crois, pour être compris, parce que je me sens très seul, en fait. Je me sens vraiment incompris depuis toujours, de façon forte. Et je m'adapte énormément pour pouvoir rester dans des compréhensions. La drogue m'a beaucoup aidé pour ça, ça permettait de m'éteindre. Donc moi, j'étais au même niveau que tout le monde. Quand tu es dans un hangar avec 4000 personnes qui bouffent la même drogue parce qu'il y a 3 dealers, bah, voilà, forcément, tu es au même niveau. Et en fait, aujourd'hui, je sais pas trop. En fait. J'ai besoin de confirmation en fait, pour pouvoir, moi, même si ça ne changera rien. Voilà. Donc là, je suis en pleine construction. Et puis je dis ça, il y a une nana qui va me tomber dessus dans le métro dans 3 jours. Mais voilà, je suis toujours en train d'y penser en fait. Et c'est oui. Ça moi qui me bouffe, c'est que je ne peux pas être célibataire tranquille. Quand je suis en couple, je suis pas bien. Quand je suis célibataire, je suis pas bien d'être célibataire. Il y a toujours un truc qui est pas bien là où il est. Donc ça vient de personne quoi. Ça vient uniquement de moi. Donc
mais tu fais ce chemin.
Ouais, c'est la bonne nouvelle.
C'est ça.
Si c'est la faute des autres, je peux rien faire.
Non mais voilà, tu fais ce chemin, tu t'avances. T'imagines quelques années de thérapie, le bon que tu as fait. Enfin, c'est... Il faut que tu te le dises aussi, il faut que tu t'autorises à te valoriser par rapport à ça.
C'est compliqué.
Parce que tu ne t'es pas marginalisé. Enfin, tu as réussi à avoir une carrière, tu vois, à être autonome financièrement, tu n'es pas marginal, socialement, tu vois, ça marche pour toi.
Ouais, carrément.
Donc, c'est quand même extraordinaire déjà ce chemin que tu as pu faire tout seul.
Bah écoute, ouais,
c'est important que tu fasses cet arrêt-là.
Ouais, on me le dit souvent en fait, et c'est vrai que il y a une certaine pudeur par rapport à ce genre de situation, mais parce que j'ai une peur panique de pas être humble et de
alors,
ça.
Alors ouais, l'humilité c'est une chose, hein, mais tu vois, se mettre dans cette souffle.
Bah oui, non, mais j'entends. Il y a pas de c'est en cours de travail là-dessus. C'est parce qu'en fait, en gros, voilà, c'est. Il y a quelque chose de l'ordre en fait.
Il n'y a aucune arrogance à dire qu'on se fait du bien. Hein.
Bien sûr. Non, c'est pas par rapport à. Oui, mais c'est. Voilà. Enfin, moi, il y a un truc qui se joue là-dessus qui est très dur pour moi. Donc, voilà, j'entends. Intimement, je me le dis. Mais je ne l'accepterai pas devant toi. Trop tard, je viens de le faire en vrai. Mais c'est pas. Mais c'est, voilà, c'est comme ça que ça se passe à l'intérieur. Ouais. C'est qu'intimement, je me le dis. Je le vois. D'ailleurs, je te le dis, tu vois, j'ai la chance à cet âge-là d'avoir fait ça. Donc, bien sûr que c'est entendu. Mais ça me fait, tu vois, ça me crispe en fait de quand les autres le disent.
Je voulais savoir, tes tatouages, ils viennent parce que t'as le bras gauche complètement noir.
Ouais.
Tout l'avant-bras ?
Non, ça arrête la moitié du bras en soi.
D'accord, donc tu as du poignet.
Et après, ça remonte du poignet jusqu'à la moitié du bras.
Ouais.
Et après, là, ça remonte sur toute l'épaule, après, sur un autre tatouage.
D'accord, et l'autre bras, j'ai vu que tu avais un trait.
Ouais, c'est des grands, c'est plein de traits, en fait.
Ok.
Ouais. Ouais.
Et ces tatouages, tu les as fait brièvement pourquoi ?
Raison graphique.
D'accord. Qu'est-ce que tu te projettes demain ? Je sais que c'est compliqué, parce que déjà, aujourd'hui, tu es dans ce trouble. Alors, on va formuler un peu différemment pour cette fois. Qu'est-ce que tu te souhaites demain ?
En plus, tu utilises un mot qui résonne énormément dans la philosophie dans laquelle je suis aujourd'hui. Mais en gros, il y a beaucoup de choses. Parce qu'aujourd'hui, vu que j'ai embrassé la philosophie bouddhiste, du coup, je suis énormément actif là-dedans. Donc et dans les études philosophiques et dans la méditation. Donc, ça va de pair avec ça. Je me souhaite, même si je vois le futur, on peut en parler comme ça. C'est juste que j'y réfléchissais, qu'est-ce que je pensais vraiment. Que ça continue comme ça, en fait. Ça s'arrête pas, là, ce que je suis en train de faire. Pas que ça continue tel que je me sens là, dans l'instant T. C'est que ça continue à avancer tel que ça avance. Et qu'il y ait de la douceur, du calme. Ma vie était un marasme d'excitation. Et que je puisse, en fait, comprendre, mais avec mon corps, ce qui se passe pour moi, pour pouvoir accueillir peut-être une personne si c'est ce qu'il me faut, tu vois, parce que peut-être qu'en fait c'est pas ce qu'il me faut aussi. Moi, je m'ouvre à toutes les possibilités. Je m'ouvre aussi à la possibilité de l'homosexualité. Je me suis posé cette question pendant plein de fois et elle continue à être ouverte. Mais bon, là, en tout cas, parce que du coup, je me dis, comme j'ai recréé le schéma avec ma mère, est-ce que ça pousse jusqu'à la femme, tu vois ? Est-ce que je me suis pas empêché ? Donc, on se reverra peut-être pour un coming out, pour un épisode. Finalement, c'est mieux que les mecs. Hein. C'est marrant.
Et la pénétration, c'est super.
Bah non, mais du coup, okay. Je me suis posé cette question aussi. Parce que est-ce qu'il n'y a pas autant de blocage parce que je ne me suis pas trompé de sexe, en fait. Donc voilà, donc il y a toutes ces questions-là. Mais moi, je me souhaite des réponses, en fait, douces. Pas des réponses de vénère. Là, qui...
Je pense que tu as assez donné déjà.
Ouais, voilà, c'est ça. C'est que j'ai assez donné dans le changement radical. Là, j'ai envie de laisser les extrêmes derrière la porte. Et de jouer sur. J'ai envie d'ouvrir mon cœur, en fait. Mais alors, ça fait super gnangnan, comment je suis en train de le dire. Non, mais je dans le sens où. Mais profondément, c'est vraiment ça. Et j'assume le gnangnan de là-dedans, c'est-à-dire mais quoi, toutes les strates de ça. Du gnangnan jusqu'au philosophique par rapport à ça. C'est-à-dire, je me souhaite de pouvoir ouvrir mon cœur à qui que ce soit, en fait.
Déjà, ce que tu fais là.
Ouais. C'est, oui, tout à fait. En fait, je suis là aussi pour ça, en fait, quelque part. C'est vrai que. Je pense qu'il y a une nature que j'ai à l'intérieur, que j'aimerais pouvoir révéler. Donc, c'est-à-dire, c'est pouvoir laisser s'épanouir qui je serais devenu sans.
Ces traumatismes.
Sans ces traumatismes, ouais. Essayer de voir comment était construit ce cerveau-là, qu'est-ce qu'il aurait fait de lui-même, en fait. Donc, je me retrouve souvent à avoir des phases un peu adolescentes et tout pour revivre un peu des phases comme ça. Donc, je me souhaite ça, revivre des étapes. Pouvoir les piocher dans le Erwan de toute sa vie pour pouvoir le remettre un peu aussi dans des situations d'aujourd'hui. Et je souhaite aussi tomber amoureux si c'est pas quelque chose qui me décentre.
C'est quoi le mot de la fin, Erwan ?
Trouvez-vous une putain de psy. Vous allez kiffer.
Ok, c'est super. Bah écoute, je te remercie pour ce moment qui est hyper intense. Ouais, intense. J'aurais pas d'autres mots pour le coup. Bah merci pour ta générosité en tout cas.
Merci à toi.
Et je te souhaite le meilleur.
Merci beaucoup. Toi aussi.
Merci infiniment à Erwan pour sa générosité. Cette interview a duré quasiment 3h30. Ça a été assez éprouvant, assez long. J'ai beaucoup coupé les moments où Erwan et moi-même avons dû couper pour respirer, boire un verre. Enfin, voilà, ça a été très éprouvant. Mais je suis très heureuse en tout cas que cet épisode ait pu vous arriver. Merci pour votre soutien, merci pour tous les retours que j'ai eus sur cet épisode. N'hésitez vraiment pas à venir en discuter sur Instagram, en DM, par mail, sur Facebook. C'est toujours un grand plaisir d'échanger avec vous. Je vous dis à très bientôt et vous souhaite un bon confinement.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.